Un coin de pixel.
Oyez, oyez, bienvenue sur le podcast d'un coin de pixel, l'actualité du jeu vidéo en Suisse et ailleurs. On est en compagnie donc de Sandro et de moi-même Voutraire avec l'équipe Asilamba, Noël, Gilles et Jackie. Et du coup, on va parler de plein de choses au sujet de leur jeu et ça va être super sympa. Alors, un sommaire pour commencer. On va aborder le premier point, ça sera plutôt apprendre à connaître les intervenants, c'est-à-dire eux en dehors du jeu. Ensuite, on va s'intéresser pas directement au jeu lui-même, mais plutôt à sa création, sa genèse, comment toutes les choses se sont goupillées pour qu'ils en arrivent ici aujourd'hui. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, à savoir le jeu lui-même, avec des questions très spécifiques, et on va beaucoup parler de ça. Et finalement, ensuite, leur rapport par rapport à la scène helvétique. Et finalement, une petite partie un peu plus freestyle sympa, où on va parler de plein de choses, y compris les jeux qu'ils aiment, les jeux qu'ils n'aiment pas, pourquoi, etc.
Alors, merci.
Merci, Sandro.
Merci, monsieur. On peut déjà dire bonjour.
Oui, c'est juste voilà. On oublie la politesse. Ouais,
c'est pas très sympa, oui, le gars, il part tout seul, il est content. Bonjour, déjà.
Bonjour.
Monsieur, bonjour.
Bonjour aussi.
Salut, salut.
Merci d'avoir fait le déplacement depuis le Valais, c'est très appréciable. On est content de vous accueillir, en tout cas. Et comme tu as dit, on démarre par déjà, si vous pouvez vous présenter.
Très rapidement
ouais, qui vous êtes, votre nom.
Oui, sans problème. Alors, je m'appelle Noé, pas Noël, hein, comme tu l'as dit avant. Je sais que c'est la période.
J'ai mal prononcé. C'est le sapin.
C'est le sapin. Les boules de Noël et tout. Non, alors je m'appelle Noé et je suis étudiant en bachelor en informatique à l'université de Fribourg. Et j'aime plein de trucs dans la vie.
Ok, ah,
parfait.
Alors moi-même, je m'appelle Gilles Clavien, je suis dans la même formation que Noé, donc en bachelor informatique en troisième année à l'UNI de Fribourg. Du coup, je viens plutôt de Fribourg ce soir.
Ah,
mais
okay.
C'est pas grave, je suis valaisan, je viens aussi un peu du même coin en Valais. Programmation, et puis à côté de ça, je fais aussi de la programmation, mais cette fois musicale pour un festival. Et puis aussi pas mal de trucs dans le domaine un peu événementiel, et puis aussi un peu des trucs graphiques et ça.
Ok.
Et moi, c'est Jackie Casas.
Ok.
Je suis aussi valaisan et j'habite aussi à Fribourg. J'habite à Fribourg. J'habite avec Gilles.
Ok. Ah ouais, donc en fait, vous êtes venu de Fribourg.
C'est pas une histoire d'orientation sexuelle. Et sinon, dans la vie, j'étudie l'informatique. Je fais un master en ingénierie logicielle. Et voilà, dans le jeu, si jamais je suis oxymore, de la nerve.
Ok. D'accord. On en reparle après.
Ça marche.
Ils ont donné les formations, voilà. Oui, hein, tous. Hein, on voulait vous poser cette question, mais résultat, vous nous court-circuitez.
Désolé. Mais du coup, ouais, mais c'est parfait. Maintenant, on voit un peu les formations et tout, c'est cool. Et puis, on peut associer votre voix et votre nom. Donc, du coup, c'est bien. On va partir directement dans le vif du sujet, quoi, à propos de la création du jeu. Alors, nous, on se demandait, en fait, vous développez le jeu majoritairement sur votre temps libre, ou comment ça se fait en termes de si vous êtes pro ou pas, comment ça se goupille de ce côté-là?
Alors, dans l'idée, c'est complètement amateur pour l'instant, c'est complètement sur notre temps libre. Donc, on s'est présenté brièvement, je profite aussi de présenter vite fait le reste de l'équipe. Donc, on a Julien Valentini, qui est l'illustrateur, qui fait tout le design et tout ça du jeu. Et puis, on a Adrien Genoux et Alexandre Bercla, qui sont à l'HES à Sierre, en tourisme et en économie, et qui, eux, gèrent plutôt les aspects, alors, légal, et puis légal, aspect com et des choses du genre. On a une troisième personne, Vasco Zangado, qui est aussi à l'HES en économie avec Alex, et qui, lui, gère un peu les mêmes trucs qu'Alex, mais, en fait, il y a tout un délire. Je vais peut-être parler plutôt de la genèse et puis comment on en est arrivé là.
Ouais.
Donc grosso modo, ça fait 3 ans et demi qu'on bosse sur le jeu. On a commencé avec Noé, moi-même, Adrien, Adrien et Johan Cavallo, qui n'est plus dans l'équipe. On a assez rapidement été rejoint par Jackie et puis par Julien Valentini et puis par Alexandre. Donc là, on était 7. Johan est parti après. Là, c'était complètement sur notre temps libre. On a fait des premières releases avec des tests avec pas beaucoup de gens, une première alpha autour de 2012, mi-2012, avec 20 joueurs, hein, vraiment un petit truc. Et puis après, on a fait jusqu'à 4 alphas, avec jusqu'à la dernière où il y avait pratiquement 100 personnes. Et puis, l'année passée, on a été à la convention Hall of Game, On a eu cette occasion d'aller présenter notre jeu. Et puis là, donc c'était à l'HES de Sierre, justement. Et on avait deux de notre équipe qui étaient là-bas, en deuxième année. Et en fait, ils ont profité d'une option qui s'appelle BEX, Business Experience, qui est en fait, durant la troisième année, une sorte d'option où ils peuvent essayer de monter une entreprise sur un truc. Donc souvent, ils partent sur des projets complètement vierges. Mais là, ils ont dit, ben, tiens, on part sur, sur le jeu. Et donc, c'est là où Vasco Zangado les a rejoints, qui lui est dans BEX et donc est moins associé au projet. Mais donc, on a trois personnes qui bossent maintenant à l'école, en quelque sorte, pour ce projet. Voilà où on en est maintenant.
Ok.
Ok, c'est très... Ok, d'accord.
C'est terriblement clair.
T'as
déjà fait l'exercice plusieurs fois ou...
Oui, j'en parle souvent. Je parle assez bien à la radio. J'en ai fait plusieurs fois. Du coup,
d'accord,
je...
on voit qu'il est voilà, complet.
Non, puis je pense qu'on fait assez cette historique à plein de gens qui nous demandent d'où ça vient, etc. Donc,
Et est-ce que, peut-être à plus long terme, est-ce que le but c'est quand même d'en vivre ou est-ce que vous avez toujours l'intention que ce soit une activité annexe
Alors en fait, depuis BEX, on se rend compte que ce serait cool, surtout qu'on a lancé la bêta en octobre et puis qu'on a beaucoup de joueurs. On commence à en avoir 600, quelque chose comme ça. Et puis les gens crochent énormément. On parlera peut-être après un peu plus des stats ou des choses du genre. Et donc, oui, l'idée, ce serait à la fin de BEX, en fait, il y a possibilité d'avoir des locaux avec ce qu'on appelle l'incubateur et donc d'avoir de l'argent aussi à disposition par l'État. Et donc l'idée ce serait de partir là-dessus, peut-être. Donc on est encore vraiment en phase de réflexion. Comme on a une assez grosse équipe, on est 7, il y a vraiment des envies divergentes. Il y en a qui sont plus pour continuer leurs études en master. Je pense notamment par exemple à Noé qui m'avait dit ça. Julien Valentini, il a complètement fini ses études, il bosse. Du coup ça dépend aussi de l'argent qu'on arrivera à générer. Donc on sait pas trop, mais dans le délire, ouais, à fond.
Ok, d'accord. Elle est pour donc Noé, toi plutôt...
Moi, dans l'idée, c'est de surtout pas partir à plus de 10 ou 20% sur un boulot, quoi. Okay. Et de continuer sur un master dans la suite de mes études.
Parce,
ouais.
Parce que du coup, là, actuellement, avec votre workflow actuel, ça occupe combien de votre temps en général ?
C'est très variable selon les périodes. Mais ça peut prendre 3-4 heures par jour, voire plus, dans la semaine qui précède le release d'une bêta ou d'une alpha. Sinon, il y a des périodes où on peut aussi beaucoup moins bosser. Ça dépend tout de notre envie et de l'urgence du moment. C'est souvent à l'arrache sur une grosse release où on se met un coup de pied au cul puis qu'on bosse comme des porcs pendant plusieurs jours, quoi.
Ouais, avec café, Red Bull et puis ouais, tout ce qui va avec, j'imagine.
Dans l'idée aussi, dans l'idée, on essaye quand même de faire une journée par semaine entière pour le jeu. Et puis après, ça tout dépend aussi ce que tu entends par travailler, parce qu'il y a développer, puis il y a aussi tenir la communauté et tout ça. Et ça, oui, ça se fait un peu en jouant, en répondant aux gens. Donc là, clairement, je pense que c'est 2 heures par jour par personne pour toute l'équipe. Ouais. Mais c'est pas vraiment du job, c'est voilà quoi.
Bah, c'est du plaisir, mais ça quand même demande du temps, ça c'est clair. Par contre, du coup, là, je soulève un point que je trouve hyper intéressant, c'est le fait que vous jouiez également au jeu en même temps, puis que vous soyez très investi. Du coup, ça fait aussi partie du développement, en fait, un peu d'une certaine manière. C'est marrant d'avoir ces deux aspects, parce que ça fait partie de vous accumulez des feedbacks, vous avez une vision du jeu qui est complètement différente à des devs qui, comme un bêta test, qui est continuel, enfin de votre côté, quoi. C'est ce que je veux dire.
Oui, alors on a dès le début voulu être très proche de la communauté parce que bon, ben déjà c'est un jeu qui est un peu RP, on en reparlera après, mais bon, c'est assez cool. Et puis je suis persuadé que pour faire un jeu qualitatif, il faut commencer à écouter ce que veulent les gens et il faut aimer jouer. De manière générale, je pense qu'il y a trop de jeux, mais là c'est peut-être une petite analyse qu'on pourra parler plus à la fin, mais je pense qu'il y a trop de jeux maintenant qui sont développés par des économistes, et puis il y a trop de jeux où les développeurs jouent pas forcément et se rendent pas compte qu'à la fin le produit, ben, il y a des trucs qui leur paraissent cons mais qui n'est pas utilisable. Donc on essaye à fond d'améliorer là-dessus, on a eu peu d'expérience, il faut quand même se rendre compte, moi je dis souvent ça quand on en parle, on a vraiment commencé à développer le jeu, on savait pas faire grand chose en prog et tout, on faisait un peu n'importe quoi, on a beaucoup réécrit de code, énormément, on a dû recoder 2-3 fois le moteur de jeu entier, mais on a énormément appris et le fait d'y jouer, on a appris à faire du game design en quelque sorte. Maintenant on commence à comprendre certaines théories du game design, certaines mécaniques, mais parce qu'on y joue, parce qu'on écoute les gens et parce qu'on dev là-dessus.
Non, et puis si on joue pas au jeu, ça veut dire que, je sais pas, ça veut dire qu'on l'aime pas, on va pas aimer notre propre jeu, ou alors on le recode.
Effectivement, ça fait sens. Mais comme tu dis, le problème c'est qu'il y en a, ils développent pas ça pour s'amuser sur leur jeu. Ils développent ça pour des raisons économiques et rien d'autre. Et la question initiale, je crois, si je suis pas taré, on t'avait pas posé à toi, Jackie, est-ce que toi tu comptes continuer ou tu aimerais le faire à 100% à plein temps, ou est-ce que tu veux partager ton temps?
Bah en fait, comme je l'ai dit avant, je fais un master en informatique, et ouais. Ce que j'ai fait, c'est que je le fais à temps partiel. Donc j'ai à peu près la moitié de mon temps libre, en quelque sorte, où je travaille à côté. Mais c'est pas impossible que l'année prochaine, je puisse utiliser ce 50% de libre pour bosser pour le jeu.
Ok.
Ok. Ouais. Et puis du coup, pour la genèse du jeu en lui-même, c'était quoi votre envie et puis votre intention en fait? Qu'est-ce qui a donné le déclic à un moment? Allez, vas-y, c'est parti, on se lance, on retrousse les manches, on code et puis on pose tout ça en fait. Comment ça s'est passé?
Alors là, je donne une petite anecdote qui fait vraiment le début du jeu en fait. Avec Noé, avec Adrien et justement ce Johan, je parlais avant, on faisait un groupe de musique avant.
on a loupé le son de bonjour bière. La bière.
On faisait un groupe de musique et en fait assez trippé où c'était on avait fait avant ensemble d'autres styles de musique et là on était parti à 4 sur un petit projet perso en fait de faire des sortes comme si on était des reporters de guerre dans un monde futuriste dans un vaisseau spatial et puis qu'on se transformait tout d'un coup en une sorte de mercenaire et tout l'idée c'était de faire un concert entier basé sur des chapitres et d'aller vraiment avec une histoire et en fait ça c'est l'univers du jeu. Du coup, c'est complètement parti de là. Et ça veut dire que, grosso modo, le groupe, on le situe quelques milliers d'années avant l'univers actuel. Mais tout était parti de là. Et à un moment donné, on était au local, je m'en souviens très bien. On était les quatre. On avait probablement fumé un pétard, mais je ne suis pas sûr. Et on se dit, Noé était à l'EPFL, avait fait 6 mois de PFL en physique, mais du coup avait fait de l'info. Et moi-même, je m'étais mis tout seul en informatique, plutôt justement pour faire du design. J'avais fait du web. Et on s'est dit, mais putain... on fait un jeu.
Bon, à la base, on voulait faire un calendrier événementiel valaisan, en fait. Et on s'était dit, Gilles particulièrement avait envie de se lancer sur un projet web. Et comme il savait que je faisais un peu de prog, il s'était dit, on pourrait faire un calendrier événementiel. Il n'y a pas trop ça maintenant, ça a été fait par la suite en Valais, mais... Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, on voulait faire ça. Puis finalement, au bout d'une fois, Gilles est arrivé. Il a dit « Et en fait, j'ai trouvé mieux. On fait un jeu. » Et on s'est un peu marré. Mais finalement, on était tous super motivés. Puis on est parti là-dessus complètement avec moi, mes connaissances de 3 mois d'un semestre à l'EPFL, de 2 heures de cours par jour en C++. Gilles avec ses connaissances principalement d'HTML, CSS. Et on a commencé à apprendre le PHP sur le tas. Puis à essayer de se mettre là-dedans, quoi.
Ok.
Mais ouais, et clairement, si vous allez relire les. Genre, on a un blog sur le portail. Si vous allez relire les premiers billets, il y a genre des trucs complètement what the fuck. Problème de compréhension d'un array par une boucle. Et on se disait, putain, en fait, ce mot-clé, il sert à ça. Mais vraiment des trucs de débutant de programmation. Quoi. On revoit ça maintenant, on se marre. Mais c'est hyper drôle. Ça a vraiment commencé à l'arrache.
Hein. Ok. Mais vous avez. Donc, ça part d'un groupe de musique. Mais dans le jeu final, il n'y a pas de musique?
Non. Non mais il y a l'univers. L'univers oui. Est suffisamment vaste pour pouvoir en faire.
Mais c'est
un
marrant
livre,
que vous n'ayez pas utilisé parce que vous aviez des musiques déjà, vous aviez pas.
On en a encore quelques-unes. Bon, on va pas les.
Ah d'accord. Et vous avez pas. Parce que c'est drôle, je trouve.
Ça serait drôle.
Cette idée.
Mais par exemple, moi j'avais pensé, on reparlera plus après du jeu, mais j'aimerais bien avoir un hymne national de chaque faction.
Ah oui.
Par exemple, et c'est des choses que quand on aura le temps, on serait vraiment motivé à faire.
C'est des choses qu'on peut faire, ouais. Personnellement, je suis musicien, je suis pas mal musicien, et c'est des trucs qu'on peut complètement s'amuser à faire à l'avenir. Après, c'est vrai que dans un jeu de ce type, donc un jeu de gestion par navigateur, une musique est clairement moins importante, voire quasiment pas du tout nécessaire à l'élaboration d'un tel jeu, contrairement à un jeu d'action ou un RPG où ça peut te mettre dans l'ambiance.
Ok, ouais. Oui, c'est vrai qu'effectivement c'est pas prioritaire, mais je trouvais drôle effectivement de se dire ça a commencé avec de la musique et à la fin
un petit truc à dire, j'étais allé voir un concert une fois et c'est justement leur groupe qui jouait. C'était leur seul concert.
Ouais, d'accord. Okay.
Donc, je suis pas sûr qu'il y ait des enregistrements quelque part, peut-être, hein, mais
ouais, mais c'est des enregistrements pourris sur des Natel. Mais je crois qu'on doit toujours en avoir dans des vieux ordinateurs.
Ah ouais, donc vous avez jamais enregistré
dans des
les morceaux
externes, de craquer, ouais. Stockés, enterrés.
Mais c'était bien.
Ah sûrement, vous faites confiance. Je poursuis ou tu poursuis?
Mais je t'en prie.
Mais alors je vais poursuivre, je vais prendre. On voulait savoir. Mais en fait, j'ai envie de rebondir sur un truc qu'on aurait dû parler avant. Ouais. Parce que là, tu niques tout le processus.
Merci. Sinon, c'est pas drôle. Je te mets bien là. Au début, merci bien. Après,
non, on avait juste une question sur la monétisation du projet, en fait. On voulait savoir, en parlant justement tout à l'heure de l'idée d'être pro, de pas être pro, est-ce que derrière, parce que là, pour l'instant, il est pas du tout monétisé le jeu, et est-ce qu'il y a une ambition à terme de le monétiser ou pas du tout?
Alors oui. Ben, si, dès le moment où on voudrait essayer d'en vivre, c'est évident. Par contre, on est extrêmement attentif au côté pay to win, qui est grosso modo l'apanage de tous les jeux de ce genre. Et donc, on recherche activement et on a quelques pistes de monétisation différentes et qui soient pas tu payes et tu gagnes, quoi. Donc, pour l'instant, on met en avant un peu les dons. On a déjà reçu un peu des dons de gens disant pour l'instant, c'est complètement gratuit, on met pas de pub.
C'est à cause du petit chat.
C'est à cause du petit chat, ouais.
On a sur notre site web, on a une page pour faire des dons avec un petit chat tout mignon.
Ah ouais, coup, non.
Qui augmente de 173% l'engagement.
On a fait des études donc de marché
pour les auditeurs, faut surtout pas hésiter. Hein. Surtout, donnez pas pour le jeu, hein. Donnez pour les chats.
Mais en fait, ce qui se passe avec le chat, c'est qu'ils arrivent, ils veulent mettre 10 francs, ils voient le chat, ils mettent 15 ou 20.
Ah, c'est ça, c'est une espèce d'amplificateur de fric. Ah, c'est intéressant, ouais.
Mais sinon, ouais, bah, je sais pas si tu veux parler maintenant des moyens de monétisation, c'est peut-être un peu complexe vu qu'on n'a pas encore parlé du jeu, mais comme tu veux.
Ah, parce que c'est lié, ouais, bah oui, forcément.
Certains trucs sont liés, ouais.
Ouais, ok, d'accord. Bon, on peut revenir à la fin dessus.
Revenir après,
ouais sans souci, sans souci.
Enfin, les gens qui connaissent peut-être pas forcément. Donc, du coup, ouais.
Par rapport au. Oui, alors, prochaine question, là, du coup, on revient dans l'ordre, c'est beau, hein. Donc, le workflow, comment est-ce que vous fonctionnez entre vous? Est-ce qu'il y a des postes établis? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est très malléable? Ou est-ce que vous avez vraiment une organisation beaucoup plus militaire? Comment est-ce que vous organisez?
C'est un peu à l'arrache tout en se professionnalisant gentiment. Donc, grosso modo, on a déjà deux équipes. On a l'équipe de dev, nous trois. Et puis on a un peu le reste de l'équipe, donc il y a aussi Jules qui bosse plutôt un peu seul, donc au niveau de l'illustration. Et puis les trois autres sont plutôt dans Bex, donc bossent une journée par semaine pour ça, en cours ils ont un bureau. Et donc on s'organise comme ça, on essaye de pas mal communiquer, s'envoyer des mails de récap un peu toutes les semaines et tout. Dans l'idée, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Maintenant, au niveau du dev, du workflow du dev, ça commence à être un peu plus pro avec des vrais processus où tout ce qu'on va faire va passer dans une pré-prod où il y a des joueurs qui testent avant de mettre en prod. Et après on passe en prod, forcément. Enfin, à moins que ce soit un peu moyen.
Pour l'anecdote, ça fait à peu près 3 ans qu'on développe le jeu et ça fait un peu moins d'un an qu'on bosse avec un système genre Git. Enfin, on bosse avec Git.
De versionning, donc.
Et avant, on se passait les fichiers avec des clés USB ou sur Dropbox à l'arrache.
Ah ouais.
On a eu des pertes code source, effectivement. Et du coup, on s'est motivé à bosser avec un système efficace.
Ok.
Ouais, du coup, mais
ça,
en tout cas,
je te la laisse.
Ah, c'est la.
Celle-là le petit point d'interrogation.
Ah ouais, bien sûr,
là.
Clairement. Mais parlons, du coup, maintenant, vous avez bien expliqué, il y a un peu comme des espèces d'antennes, en fait, finalement, trois antennes différentes qui communiquent, parce que je pense que. Entre vous, vous échangez très facilement. Enfin, je veux dire, en plus, vous habitez plus ou moins au même endroit, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en plus, pour les échanges. Ah, ok, donc en plus, pour les échanges, c'est génial. Mais du coup, comment vous gérez quand. J'imagine que ça ne doit pas être toujours facile, genre pour l'équilibrage ou certaines prises de décision un peu difficiles. Comment vous faites quand vos points de vue divergent, surtout que vous êtes une grosse équipe, pour vous mettre d'accord et puis quand il y a des décisions à prendre qui peuvent être un peu.
Dans l'idée, c'est quand même un peu nous qui décidons. Enfin, je dis pas ça pour rabaisser le reste de l'équipe ou quoi que ce soit, vraiment pas. Mais dans l'idée, tout ce qui est dans le jeu, dont tu parles de calibrage, tu parles de dev, de choix de fonctionnalité, on en parle, mais on prend pas mal, nous, les décisions. Voilà.
Puis ça fait sens parce que c'est vous qui avez tout le temps les mains dans le cambouis, puis que j'imagine qui.
Ouais, exactement.
Une vue peut-être un
oui,
peu
bien
plus...
sûr. Puis de toute façon, ouais. Au final, c'est nous qui avons la main sur le code, donc on fait ce qu'on veut. après, pour tout ce qui est décision quand même plus importante qui peut concerner l'avenir de l'équipe ou des trucs comme ça, on fait soit des réunions vidéoconférence, avec Google+, soit on prévoit une réunion où on se voit vraiment en vrai tous. Ce qui est un petit peu compliqué, mais ça va, on arrive si besoin à trouver du temps. On se voit les 6.
Mais il arrive qu'on fasse des grosses réunions. Par exemple, la dernière fois, ça fait 2-3 semaines, je crois, on est allé chez un de l'équipe. On a fait une bonne bouffe. Et puis après, on discute de tout ce qu'on doit discuter. Et puis là, la dernière fois qu'on a fait ça, on a fini à 3h du matin, je crois.
Okay.
Le temps de tout faire et de tout parler.
Quand même un peu bourré.
Ouais, forcément.
Donc vous en fait avec Alex, on a fini à 6h à jouer à Halo.
Ah ouais, ça bosse du...
Mais la réunion a fini à 3h.
Mais en règle générale, vous êtes plutôt d'accord, quoi. Vous n'avez pas des gros, vous avez pas eu des gros désaccords de direction où ça a été vraiment compliqué.
Il y a eu des discours enflammés, mais on arrive toujours à peu près à trouver un compromis. Et puis souvent, c'est des décisions qui sont assez logiques. Après que chacun ait donné ses arguments, les gens arrivent sur le même choix, quoi.
Ok. Donc on va pouvoir passer au jeu.
On peut clairement attaquer le jeu, c'est même le moment.
Attaquons-le.
Allons-y. Bah, je pense que ça peut être chouette pour commencer. C'est que vous nous fassiez une présentation du jeu, en fait, un petit pitch, un truc bien senti.
Pour les gens qui n'auraient jamais vu le jeu et qui ne connaîtraient pas.
Donc ouais, alors je me lance un peu. Asylumba. Merde. Donc il s'appelait jusqu'à l'année passée Expansion.
Ok.
Qu'on a changé parce que c'était impossible à référencer.
Ok. Ouais.
Du coup, on est parti sur Asylumba. Alors,
pourquoi ?
C'est le nom d'une des planètes qu'on visitait dans notre groupe ?
Ouais, exactement. Ouais.
Je crois,
ouais.
C'est la question qu'on se posait.
C'était un terme qui avait été complètement inventé, probablement par Gilles, parce que lui, il a assez une facilité à inventer des noms de planètes fantastiques dans
l'espace.
Qui se finissent tout le temps en A. Il y a tout le temps. Là, étonnamment, il n'y a pas de H ou de Camus. Il y a souvent des trucs bizarres comme ça. Mais oui, c'était aussi une planète dans ce groupe de musique qu'on avait avant. Ouais.
Ok.
Donc, grosso modo, Asylumba, c'est un jeu de gestion par navigateur temps réel, massivement multijoueur. Donc déjà pour la définition un petit peu comme ci, comme ça. Donc ça ressemble à, pour ceux qui nous écoutent, des Grepolis, Tribal Wars, O-Game. Donc c'est dans l'espace, dans un monde complètement inventé. Je pense que la grande force du jeu, c'est le RP déjà. Donc un côté extrêmement roleplay avec des factions, tout un délire qui est bien ficelé, je pense, qui est cohérent. Et ensuite, il y a le côté stratégie, où on a essayé vraiment d'aller plus loin dans la stratégie. Souvent dans ce genre de jeu, on démarre, on fait sa planète, on essaye de faire de l'opti, dans le sens trouver quelles sont les meilleures unités, quelles sont les meilleures techno, quelles sont les... voilà, bref. Et on attaque et on fait quelques alliances, on fait des groupes, il y a très souvent, voire même tout le temps, ce concept d'alliance, mais qui n'est pas très très bien exploité. Et nous, on a vraiment voulu partir sur une vraie guerre, donc mettre un vrai plateau stratégique, comme un jeu d'échecs, et pouvoir poser ses pions, les bouger, faire des fronts, des lignes de force, faire des zones de repli et vraiment aller sur de la vraie stratégie. La stratégie à long terme, la stratégie multiple, pas bon, je décide d'attaquer ou je décide de me défendre, mais je mets 50% dans l'attaque, je mets 20% dans la prévision d'une autre attaque, je mets 30% dans la diplomatie, bref, de pouvoir vraiment faire quelque chose qui soit intéressant au niveau stratégie. Et je pense qu'on arrive à peu près, et on va devoir encore améliorer des trucs, c'est évident, mais je pense que c'est ça la grande force du jeu, avec le côté RP, et le côté aussi un peu original, je pense, dans la mise en page, c'est très loin d'autres jeux, c'est assez étrange, c'est assez fort au niveau du design, certains aiment, certains n'aiment pas, mais au moins c'est assez fort, il y a des parties pris qui sont faits. On avait voulu vraiment faire un jeu, j'ai envie de dire vrai, qui nous fasse triper, qui nous fasse marrer, et pas faire des concessions à dire « Ouais, mais ce bouton-là, il faut pas le faire comme ça, les gens, ils aiment mieux un bouton comme ça. » Non, moi, je l'aime bien. Donc, c'est un peu ça, si je peux présenter le jeu vraiment rapidement.
On sent que ça vient des tripes.
Ouais, c'est génial. C'est cool. Bah, un jeu qui s'assume, qui va à fond, puis vous faites plaisir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça fait plaisir aux gens, quoi. C'est ça qui est incroyable. Vu qu'il y a déjà plein de... Enfin, vous avez une bonne communauté, on peut en parler. Enfin, du nombre de personnes qui jouent, et puis parler de la bêta aussi, donner quelques chiffres, par exemple.
Alors ouais, ben, pour l'instant, ça fait, je crois, 8 semaines qu'on a sorti la bêta. On a pas mal d'inscrits, on a tous les jours des nouveaux inscrits, et on arrive à... 600 ou 700, je crois 700 inscrits sur la bêta. Et puis, ben, bien sûr, il y a des inactifs, il y a des gens qui viennent pour voir ce que c'est, des potes à nous, par exemple. Et puis, mais il y a quand même beaucoup de gens qui restent jouer. Et il y en a, je crois, 460 qui sont encore actifs maintenant. Ça veut dire que dans les 2 dernières semaines, ils sont connectés, ils ont joué.
Okay. Ah
ouais. Donc, c'est pas mal. Et les gens, ils viennent souvent sur le jeu. On a des statistiques. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, on a dépassé la barre des 1 800 000 pages vues.
Ah ouais,
en 8 semaines, c'est pas mal.
Ouais, trop beau. Pas mal. Mais vous attendiez, qu'est-ce que vous attendiez en fait? Effectivement, ça c'est intéressant de savoir. À la base, quand vous avez lancé le projet, vous attendiez à beaucoup moins que ça. Vous êtes dans la cible de ce que vous pensiez. Enfin, quelles étaient vos attentes par rapport à ce lancement?
Personnellement, je pense que c'est. Enfin, je pensais que c'était plus facile d'avoir des joueurs. Donc, je pensais arriver à 1000 assez rapidement. Okay. Genre après 3 semaines, mais c'était pas du tout ça. Mais par contre, je pensais pas du tout que les gens allaient jouer autant que ça et s'investir autant que ça.
Ok.
J'avoue, moi, il y a aussi un truc qui m'a marqué. En fait, j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais en fait, j'ai passé plus de temps, je crois, sur le forum, en fait, à regarder comment la communauté réagissait en termes de RP aussi. Je trouvais ça génial de voir comment les personnes s'investissaient. J'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient des espèces de chroniques où ils recensaient les événements qui s'étaient passés en jeu avec un PDF et tout. J'ai trouvé ça complètement hallucinant en termes de gestion de communauté, de voir que t'as plein de joueurs, peut-être qu'on connaît pas forcément, qui viennent. Enfin, partout en Suisse, puis ouais, comme ça qu'ils s'investissent. Enfin, comment est-ce que vous attendez un tel succès? Enfin, parce que le côté RP n'est pas forcément facile
à prendre. En fait, c'est comme le disait Gilles avant, c'est ce qu'on avait essayé de souligner dans ce jeu. Donc, à différence d'autres jeux de gestion dans ce sens, c'est de pas créer de pas laisser la possibilité de créer des guildes individuelles, mais vraiment de limiter ça à 7 factions, de vraiment, entre guillemets, forcer le RP et forcer l'entente entre les joueurs. Et on voit que ça marche super bien, en fait. On ne peut pas jouer à ce jeu sans s'intégrer dans la communauté un minimum. Il y a plein d'autres jeux du type auxquels je joue ou je jouais. Et moi, je suis assez du style à jouer à ce genre de jeu en restant tout seul dans mon coin et en parlant à personne et en entrant dans aucune guilde. Mais là, en l'occurrence, c'est pas possible, en fait. Parce que juste si tu attaques un joueur ennemi, ça peut déclencher une guerre. Et donc, tu as direct des joueurs de ta faction qui vont venir t'engueuler et dire non, ça va pas et tout. Donc, tu es obligé de suivre ce qui se passe.
Okay. Et en même temps, ça a un côté hyper fort parce que ça fait que les gens sont accompagnés. Quand ils arrivent, les chefs de faction viennent leur souhaiter la bienvenue et leur disent « t'as des questions, demande-moi, t'as besoin de ressources, on t'enfile ». Et du coup, il y a une monstre communauté, les gens se sentent pas forcément laissés. T'arrives pas dans un jeu, bam, t'es seul autour de 1000 personnes et puis tu sais pas trop quoi faire. Donc il y a vraiment un côté très famille, en fait. Mais pour répondre de mon côté à ta question, moi je crois surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes. Okay. On était content dans les alpha précédentes de la réponse. Les gens nous disaient que c'était bien, du coup on était content. Mais on n'était pas non plus à se dire ouais, on n'a pas spécialement d'objectifs commerciaux et tout. On est à peu près tous aux études, donc on est assez tranquille vis-à-vis de ce côté-là. On se prend pas trop la tête. Si on a moins, c'est moins cool, mais c'est pas grave. Du coup, je crois pas qu'on a mis beaucoup de pression sur le côté du nombre de joueurs et de tout quoi.
Au final, c'est un peu comme nous quoi.
C'est exactement ça. Mais nous, est-ce qu'on a autant de succès, nous?
Non. Non. Mais on espère. Grâce à eux. Moi je voulais rebondir sur un truc, mais je sais plus. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, j'ai trouvé. C'est un des trucs qui m'a le plus impressionné. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu à la base. J'avais pas joué au game, j'avais très peu d'expérience dans ce genre. J'avais joué à un autre jeu qui s'appelait Neptune Sprite, qui se joue sur des sessions d'une semaine ou deux. Donc, et puis justement, là, tous les autres sont des adversaires. On joue pas en collaboration. C'est pour ça que j'avais joué plutôt à celui-là. Parce que j'ai aussi une tendance autistique quand je joue à ce genre de choses. Donc, j'ai de la peine à jouer avec. Et là, effectivement, je me suis fait happer, quoi. J'ai eu envie de donner mon avis, j'ai tout de suite eu envie je sais pas, vous avez mis une dynamique en place, je sais pas si vous arrivez à mettre le doigt dessus, mais il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on a envie de participer, qu'on n'a pas peur. Enfin, des fois on a l'impression d'être j'ai un peu l'impression de dire ah, je vais dire une connerie, je vais être à côté de mes pompes, ou je vais, et là pas du tout en fait. J'ai volontiers posté des choses pour donner mon avis. Effectivement, on sent que ce que nous on fait, c'est très important. Dans ma faction en l'occurrence, il y a quelqu'un qui tout d'un coup a eu envie de conquérir des planètes un peu n'importe comment. Il s'est tout de suite fait ça a tout de suite posé des problèmes, et il s'est surtout fait renier. Enfin, j'ai trouvé hyper intéressant, et les problèmes diplomatiques que ça pose après. Enfin, je trouve qu'il y a une dynamique là au niveau de politique, de ce qui s'y passe, qui est extrêmement réussi.
Vraiment. Ouais, et puis c'est hallucinant, genre pratiquement chaque semaine, tous les chefs de faction font des réunions sur Skype de 1 ou 2 heures.
Ah ouais, d'accord.
C'est un job de ouf, mais les mecs gèrent la diplomatie galactique de manière... C'est hallucinant, et nous on est complètement... On est pas dépassé, mais on voit les événements qui arrivent et on trouve ça vraiment cool. T'as les mecs qui font des traités sur des sites à eux. Ils hébergent leur propre traité entre deux factions, ils le design et tout, et ils ont le traité, ils mettent des liens sur le... Ouais. C'est vraiment,
J'en ai vu passer un, hein, d'ailleurs, qui a été violé tranquille, dans la joie et la bonne humeur, mais qui a eu le mérite d'exister.
Ils ont créé des chats aussi. Gilles disait, on n'est pas dépassé. Si, moi, je suis complètement dépassé, personnellement. Au début du lancement de la bêta, j'essayais de suivre tout ce qui se passait dans le forum, répondre aux questions... Regarder comment ça se passait au niveau politique, la politique de la faction, ce que proposaient les dirigeants et tout ça. Maintenant, j'arrive plus, quoi. c'est plus
trop
possible. Je devrais passer 4 heures par jour à tout lire, à tout faire, en plus de jouer et de moi-même, moi-même me lancer et jouer dans le jeu. Donc, non, c'est super compliqué de tout suivre. La communauté est lâchée, là, dans la nature.
Okay. Et un truc marrant, c'est qu'à la sortie de la bêta, on s'est dit que chaque membre de l'équipe était chef d'une des factions. Comme ça, on pouvait bien lancer le truc et puis lancer l'ambiance dans chaque faction pour que les gens sachent comment faire. Et assez vite, on s'est retrouvé loin du pouvoir. Les gens ont pris le pouvoir. Et puis maintenant, on n'est même plus dans le gouvernement des factions. Parce que les gens...
Débouté ont... votre propre jeu.
Non, non, pas du tout. Mais il y a des gens qui ont beaucoup plus de temps à passer dessus que nous pour faire ça. Et c'est mieux que nous, on le passe notre temps à développer le jeu plutôt qu'à...
Mais justement, j'ai une question. Parce que je sais que, par exemple, sur EVE Online, typique, jeu bien sûr beaucoup plus gros, mais ils sont très liés à ces gens qui sont influents, à leurs chefs de faction. Est-ce que vous aussi, vous avez un contact avec eux pour savoir de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils aimeraient que vous mettiez dans le jeu ouais,
alors oui, effectivement, on essaye d'être extrêmement à l'écoute de la communauté. Là, depuis par exemple 2-3 semaines, chaque 4 jours, on publie un billet de blog qui explique qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, où on pose les questions. Là, prochainement, on va faire une légère refonte d'un système du jeu, des routes commerciales. Et il y a eu en 2 jours 30 messages dans le billet de blog de gens qui demandent, qui proposent des autres idées. Et on va très probablement les intégrer à ce qu'ils disent. Et donc oui, de nouveau, on veut le jeu le mieux et on n'a pas d'impératif financier, donc on n'a pas tout un coup à leur dire non, ça on va pas faire parce que objectivement ça va nous ramener moins de thunes. Du coup, on est à l'écoute et on se rend bien compte qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que nous dans ce genre de jeu et qu'ils auront peut-être des meilleures idées, quoi.
Waouh!
Bon, après, il y a aussi des gens qui ont des idées de merde, puis on fait semblant de leur dire ok, ok, on y réfléchira. Puis
comme partout, pas, comme partout.
Ah, oui, bah oui, alors ça.
C'est clair.
Et monsieur, je sais tout.
Ah, ça fallait pas dire non, mais si.
Hein,
ceux non, mais qui les ont proposé se reconnaîtront.
Non, mais ceux qui écoutent et puis qui croient que c'est eux, c'est pas toi, c'est pas toi. Non, c'est pas toi,
c'est
mon gars.
C'est une seule personne,
c'est quelqu'un d'autre.
Mais c'est pas toi.
Non, mais je pense que si tu crois que c'est toi, c'est que t'as quelque chose à te reprocher par rapport à ça.
Ah, donc toi, tu dis si le gars il pense que c'est lui, c'est lui. Donc, mec, c'est toi.
Ouais.
arrête tout de suite. On rentre dans les questions un peu plus où t'as des choses à rebondir sur ce qu'ils ont
là,
dit.
Du coup, c'est toi qui m'as perdu, en fait.
Je t'ai perdu, moi aussi, je me suis perdu depuis longtemps.
Perdu.
Mais j'ai plein de questions, justement, déjà de 2-3 de moi. Oui, un truc, vous avez parlé de l'interface, que vous vouliez quelque chose sans parti pris, avec des partis pris, justement, quelque chose où on s'en foutait de ce qui se fait, on veut faire ce qu'on nous, on a envie de faire. Et effectivement, quand je suis arrivé dedans, j'ai fait « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Et je dois dire qu'effectivement, vos choix sont assez intéressants parce qu'ils... Au final, elle est assez claire, cette interface. Une fois qu'on est rentré dedans, elle fonctionne assez bien. Le seul truc que j'ai encore de la peine aujourd'hui, c'est le fait qu'elle pas comme elle part de, c'est une interface qui passe de gauche à droite,
en fait, navigation horizontale.
De navigation horizontale, très juste. Avec la souris, j'ai l'habitude de scroller.
On pourrait gérer le scroll qui fasse la navigation. Ouais. Il y a d'ailleurs des gens qui ont fait des user scripts qui permettent de faire ça,
okay.
Qui sont référencés sur le forum. Mais le problème, c'est qu'on a un double scroll. On peut scroller dans les colonnes et dans la navigation horizontale, et c'est assez difficile à gérer. Mais c'est clairement quelque chose qu'on doit améliorer et qu'on va améliorer.
Ok, d'accord. Ouais, parce que sinon, pour le reste, effectivement, je pense que vos parties prises sont bons. Il y a vraiment une bonne lisibilité des choses.
Moi, particulièrement, qui ne suis pas très adepte du genre et puis qui suis facilement paumé en termes d'interface, j'avoue que assez rapidement, j'ai compris les choses qui étaient importantes, celles qui étaient moins. Puis quand je voulais aller quelque part, je m'y retrouvais. Donc, franchement, c'était cool.
Le jeu, en fait, devient globalement assez vite lisible, je trouve. La période de « Oh putain, je piche que dalle, qu'est-ce qui se passe ?» elle est relativement courte pour un jeu de ce type.
Et un peu aidé par le tutoriel.
Voilà, il y a le tutoriel, effectivement, qui, moi, je trouve qu'il m'a tenu peut-être un petit peu longtemps. Assez vite, au bout d'un moment, je le suivais plus trop. Disons que, effectivement, lors de ma première, deuxième session, j'ai un peu suivi. Et puis après je me suis promené tout seul. Puis c'est avéré qu'au bout d'un moment, je l'ai fini, mais...
Ça, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait le retour comme quoi il était un peu trop court.
Ah ouais ?
Qu'on était lâché dans la nature un peu trop tôt.
Ah ok.
Et par exemple, comment coloniser une planète, on savait pas. Comment faire une route
alors
commerciale, on sait pas comment.
Alors
faire.
Ça, c'est vrai. De ce point de vue-là, oui. Alors effectivement, parce qu'il est très axé production au final. Et moi, j'ai effectivement. J'ai peut-être pas encore assez joué et il y a beaucoup de choses. La colonisation, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Alors les combats, je ne m'y suis même pas encore frotté parce qu'effectivement, pour moi, c'est encore un peu obscur. Ça c'est juste. Ouais.
Bah ouais, c'est vrai. Le tutoriel, de toute façon, il est amené à être agrandi et amélioré. Et pour l'instant, on a fait un système que les 16 premières étapes, elles puissent se faire lors du premier jour de jeu. Enfin, les premières 15 minutes, on va dire. Par contre, après, il faut un peu attendre quelques jours pour pouvoir développer la suite et ça. Mais on va ajouter des étapes pour comprendre d'autres systèmes.
Et par la suite, l'idée, c'est même de faire une sorte de système de quête au bout d'un moment. Même que le tutoriel dure sur presque un mois. Mais c'est des quêtes, finalement. Et puis, tu le fais pour gagner des petits crédits et des choses comme ça, quoi.
Ok, d'accord. Tu veux.
On avait des questions un peu plus spécifiques.
Oui.
Parce que on les.
Oui. Moi, on peut y aller. Mais ils ont dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir et il est parti.
Excuse.
Non, mais il est parti. C'est bon, vas-y, continue. Je me suis dit, je vais poser une question et c'est parti. Donc, oui, ça, on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, pendant la préparation. Quelque chose que je trouve marquant, c'est le fait que. Vous êtes parti sur quelque chose d'extrêmement cohérent en fait. C'est pas, on sent pas une folie des grandeurs en fait. On sent un projet avec une base saine en fait. Il y a beaucoup de projets auxquels j'ai joué des fois de gens qui avaient justement pas fait de jeu, qui des fois se sont dit ah moi j'ai joué à ça et j'ai envie de faire la même chose quoi. On sent le type, il a joué à Elder Scrolls et il se dit demain moi nous on est 3 on va faire Elder Scrolls 6 quoi. Et du coup ça donne quelque chose de complètement distendu et y a pas les moyens derrière. J'ai l'impression quand je joue à votre jeu qu'il y a vous êtes bien conscient des possibilités que vous aviez et puis du coup que vous avez construit une base sur laquelle maintenant vous allez pouvoir construire vous allez pouvoir justement ajouter des choses et faire grandir. Est-ce que mon impression est juste ou est-ce que c'est un pur hasard que ce soit arrivé?
Alors, il y a peut-être plusieurs éléments de réponse. D'abord, c'est un jeu par navigateur et c'est dans le genre de jeu un petit peu le truc le plus simple à développer. Je dis pas que c'est simple et on en a bien chié et il y a beaucoup de lignes de code derrière. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec un MMORPG online 3D. Où oui. Là, il y a énormément... Enfin, je veux dire, c'est juste infaisable à moins d'être 20 professionnels à temps complet, quoi. Donc il y a ce premier truc, on est parti sur un truc.
Mais du coup pourquoi ce choix-là justement? Parce que même ce choix-là,
parce qu'on s'est rendu compte au début que c'était faisable. Tu parlais avant de pas qu'il n'y ait pas de musique. Bah c'est un peu, on aurait aimé avoir de la musique, mais finalement on est parti sur un jeu qui nous semblait faisable, mais dans lequel où c'est difficile d'intégrer de la musique. Après ouais ben moi je suis content de ce que tu me dis. C'est très difficile quand t'as le nez dans le guidon de savoir où t'en es et tout. Du coup c'est bien de voir qu'en fait il est cohérent. Je pense qu'il y avait un univers cohérent au début. Et puis qu'on a les pieds sur terre et puis qu'on va tranquille.
Non, on a imaginé 1000 trucs pour ce jeu qu'on a pas fait.
Tu parles des micro-ressources ?
Je parle notamment de tes micro-ressources.
Qu'est-ce donc les micro-ressources ?
C'est
un sujet sensible.
Dans le jeu, en fait, on a extrêmement simplifié le truc. Donc on a deux ressources en gros. On a les ressources et les crédits.
Ouais.
Et c'est vrai que dans pas mal de genres de jeux, enfin dans la plupart des jeux de gestion, on a 5-6 ressources différentes, le métal, la pierre, le bois ou j'en passe.
Et ça s'explique facilement, hein. En fait on nucléarise toute forme de matière et on en fait une soupe de plasma et après on recombine pour faire n'importe quelle particule.
Exactement.
Du coup on a une ressource.
Okay.
D'un point de vue roleplay, c'est sans problème. Mais Gilles voulait quand même intégrer des micro-ressources à un moment donné.
D'accord.
Et donc pouvoir avoir un système complètement, un millier de ressources pour pouvoir avoir un marché incroyable.
Ah.
Mais je crois que c'est la période où tu jouais à jeu de commerce. Là.
Ouais, non, mais dans le délire, ça aurait été de mettre que chaque planète sur les galaxies ait des ressources qui. Des bonnes ressources, mais genre même tout un coup du mouton de je sais pas où, des trucs du genre, puis qu'après en faisant du commerce, les gens qui ont pas ce genre de ressources font et puis vraiment font
la demande, ouais.
Commercial. Je trouvais pire intéressant et lui il m'a dit que c'était nul.
Nul ou pas réaliste?
Les deux.
Les nœuds, d'accord.
Non, réaliste, ça l'est. Je pense pas que c'est difficile de développer un jeu où tu prends des ressources et tu les revends, mais c'est juste pas le type de jeu, quoi. On a un jeu principalement axé sur la prise de planète, la guerre et la politique. Donc, c'est pas vraiment le. Et c'est pour ça qu'on est parti sur le côté d'avoir une seule ressource de base et des crédits.
Mais c'est bien, parce que c'est relativement. Enfin, voilà, encore une fois,
c'est
ça,
cohérent,
on retourne à ce qu'on a dit au départ, c'est que c'est cohérent. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez.
Noé est un vrai garde-fou.
Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, et puis du coup, ça rentre pas, on veut pas faire un jeu de commerce, donc commerce dehors.
C'est, oui,
donc,
en fait,
on en discute. Conscience de ça.
Exactement, et on n'a pas honte chacun d'envoyer des idées. Mm-hmm. Moi, j'ai pas du tout honte de mon idée. Et puis d'un autre côté, les gens ont pas du tout peur, que ce soit entre nous trois, mais avec les autres aussi, de dire non, c'est une idée de merde. Et du coup, ça permet le fait d'en discuter, de pas avoir un game designer qui pense tout le jeu. Ben, ça permet aussi de moins se planter, je pense.
Ok, ouais. Et puis donc, les micro-ressources, c'est pour quand?
Mais ça viendra peut-être.
Si Noé tombe du balcon après, ça peut être plus vite que prévu.
Mais quand on aura fini le jeu tel qu'on l'imagine fini maintenant, pourquoi ne pas rajouter des trucs fous ensuite?
Non, c'est clairement une question de priorité pour l'instant, on a d'autres priorités.
Et vous l'imaginez fini d'ailleurs quand? Quel est le
2135.
Délai? Ah ouais, donc c'est bientôt là. Tranquille.
On y a non, dans, dans l'idée, on y a donc, bon, on n'a pas vraiment parlé encore du jeu, mais ce qu'on a pour l'instant, c'est gérer une base, construire ses bâtiments, développer une technologie. On a à peu près, on a un principe de technologie assez marrant, d'une technologie fondamentale où vous êtes faites de la recherche dans l'université qui est un peu aléatoire, de la même manière que la recherche actuelle, la recherche fondamentale, et après de la technologie appliquée qui permet de vraiment trouver des choses. On a donc les vaisseaux, les commandants, pouvoir former des commandants, toute la gestion des combats, du déplacement sur la map, un marché, toute une gestion des routes commerciales entre partenaires pour pouvoir générer des crédits, tout un système de factions, de forums, de messagerie, tout un système de lois et de gouvernement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Grosso modo, c'est les fonctionnalités qu'on a pour l'instant. Et la dernière grosse fonctionnalité qu'on veut faire, c'est les vaisseaux mères, qui seraient des bases qui peuvent bouger. Donc c'est des vaisseaux qui sont vraiment comme des bases que tu peux construire et que tu peux envoyer des flottes et revenir. C'est vraiment des sortes de bases qui bougent, des avant-postes.
Ok, d'accord. Et puis ensuite là, vous serez... Enfin,
à partir de là, le jeu serait fini tel qu'on l'a imaginé à la base.
Ouais, il y aurait encore en fait, après ça, si on va vraiment jusqu'au bout, l'idée d'avoir des cartes historiques. Donc je sais pas si ça t'a frappé dans le jeu. Toutes les planètes ont un coefficient ressources. Toutes les planètes ont un coefficient ressources qui va dire combien tu as raffiné le produit, et un coefficient histoire qui va dire, on va dire, l'intérêt des fouilles archéologiques qu'aurait ce site. Et l'idée après, c'est que les vaisseaux mères auraient un centre de recherche sur eux. Et s'ils se mettent en orbite autour de n'importe quel lieu, typiquement aussi des ruines, qui ont énormément de coefficients historiques, souvent autour des 100%, et ben pourraient trouver des choses, et notamment des cartes. Et des cartes qui seraient soit des bonus, soit tout d'un coup convertissables en ressources, soit tout d'un coup vous avez une putain d'armée ou des choses comme ça. Soit faire des bons technologiques et des choses du genre.
Donc quand il dit carte, c'est carte à jouer, pas une carte
blanc. D'accord. Ah, donc il y aurait un système de cartes à jouer un peu, voilà, qu'on garderait.
À Hearthstone, ouais.
Et puis on pourrait.
Un deck et tu peux.
Ah, puis du coup, lors d'une attaque, lors de l'espionnage, il a vu tant, et puis boum, on sort la carte et il y a beaucoup plus.
Voire même avec un délire. Alors là, c'est voir le temps qu'on a et l'intérêt, mais ce serait même de pouvoir crafter ses classes, ses cartes et des choses du genre, quoi.
Ah, ouais.
Mais ça, c'est vraiment à plus long terme.
Et est-ce que ça rejoint l'idée de monétisation du jeu,
ça pourrait passer par là, oui, ou pas? Ça pourrait passer un peu par là, mais pas forcément,
mais pas trop, dans l'idée où si on pourrait avoir autant de cartes qu'on veut en payant, ça deviendrait quand même un pay to win, donc ce serait vraiment des offres très restreintes.
Okay.
Et puis en fait, le dernier truc, si on fait vraiment tout ce qu'on a pensé depuis le début, la dernière chose, mais c'est un petit truc qui va déjà être intégré prochainement, c'est la génération de background automatique. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans la version 2, mais qu'on a abandonné pour l'instant, qu'on va prochainement remettre. Par exemple, sur les secteurs, quand t'es sur la carte, tu peux ouvrir le secteur. Mm-hmm. L'idée, c'est que là, t'es automatiquement l'histoire de ce secteur qui se construit. Quand t'as un gars qui prend la planète, t'as, et de manière romancée, un truc qui dit, voilà, alors lui est venu se poser sur la planète et des choses comme ça. Et quand le secteur passe d'une main à l'autre, ben, t'as écrit après de violentes escarmouches, Cardan a récupéré le secteur aux mains de la Nerve, par exemple. Et donc, on aurait ça, et puis plus poussé, finalement, construire une sorte de journal, comme sur Facebook, mais par joueur, avec toutes les actions qu'il fait, les premiers gros vaisseaux qu'il fait, quand il est élu en politique, et de construire l'histoire de chaque personnage de manière automatique.
Okay.
Et cette sorte d'histoire, en fait, ça pourrait être la suite de l'histoire, parce que maintenant, quand le jeu commence, il s'est passé beaucoup de choses avant. Il y a vraiment une histoire. Au début, il y a un empire qui régnait sur toute la galaxie, il y a eu des guerres, il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont passés, et ça, on l'a tout écrit quelque part. Je ne sais pas si on va le retrouver. On l'a aussi sur papier, mais on l'a aussi quelque part sur Dropbox. mais du coup, il y a vraiment une histoire. Et quand le jeu commence, c'est les joueurs qui continuent à écrire l'histoire, en fait. Mm-hmm.
Et pour rebondir, les cartes qu'on parlait avant pourraient aussi être des cartes art, en quelque sorte. Tout d'un coup, tu trouves un buste de tel roi d'il y a 400 ans. Et tu peux l'amener dans une sorte de collection, dans une bibliothèque, par exemple, pour la faction. Et on imaginait aussi des points de rayonnement culturel et des choses comme ça. Donc, il y aurait vraiment un délire et de bonus, de cartes vraiment genre je te défonce la gueule. Et de cartes où d'un coup, je reconstruis, même trouver des manuscrits en plusieurs parties. Puis c'est ça le craftage. Tu dois trouver toutes les parties pour reconstituer le manuscrit original.
Okay.
Et puis pour connaître l'histoire de tes ancêtres un peu. Ouais, tu vois, donc... peut-être que l'histoire au début, les gens ils la savent pas en entier et du coup ils pourraient la découvrir comme ça.
Ah ouais, ça serait génial. Et puis du coup il y aura des découvertes au sein des empires, enfin de chaque faction où on a découvert que nos ancêtres avaient fait ci, avaient fait ça.
Ou bien par exemple, les ancêtres ils avaient une technologie qu'ils utilisaient pour leur vaisseau et puis qu'ils l'ont oublié et d'un coup s'ils remettent ensemble l'histoire, ils ont de nouveau la technologie.
Ok, d'accord.
Et c'est là où quand tu disais, ouais, vous avez pensé votre jeu très simplement, bien réfléchi, ouais, le truc. Non, pas du tout. Le jeu final, non. Ouais. Par contre, on a su mettre les priorités, mmh, où elles devaient être, ouais, et on a fait en sorte d'avoir un jeu fini, jouable, avant d'avoir notre jeu complet tel qu'on l'imagine à la base, en fait. Donc, c'est là où on a été réaliste et cohérent.
Ouais, c'est juste, ouais, c'est ça. Vous avez mis un pan de gameplay et puis après, vous allez rajouter les autres au fur et à mesure, mais vous n'êtes pas parti. On commence 20% de ça, 20% de ça, 20% de ça. Résultat, ça sort et puis ça ressemble
c'est
à
ça,
rien.
On est parti sur les fonctionnalités, ouais, de base. On a sorti une première alpha où on pouvait juste construire des bâtiments. Sur, mm-hmm, une deuxième alpha où on pouvait construire des bâtiments et construire des technologies ou des, mm-hmm, vaisseaux. Une troisième alpha où on pouvait commencer à... Ouais, on avait des vaisseaux sans combat, ouais. Troisième alpha où on pouvait commencer à faire des combats. Et quatrième alpha où on pouvait faire quasiment tout ce qu'on a maintenant, sauf, okay, les lois, sauf erreur. Et après la bêta où on a un jeu fini, jouable, mais pas du tout fini tel qu'on le souhaite à la fin.
D'accord.
Okay. Et puis au début, quand on a commencé, on pensait sortir le jeu fini avec toutes les fonctionnalités. Mais on s'est vite rendu compte que... Oui,
on connaît tous
que
ça.
Si on voulait sortir une année proche...
Il y en a un là qui peut vous en parler.
Il y en a un qui sait, ouais, qui comprend tout à fait. Ouais,
avec son jeu, avec son jeu qui doit être sorti depuis 10 ans.
On sort du thème.
Non, mais on le cuisinera une fois ici, en fait. Il se cuisinera lui-même, en fait.
Ça s'auto-posera des questions.
Ça s'auto-posera des questions. Hyper complaisante, hyper complaisante.
Tu es en retard, mais je suis sûr que tu as des bonnes raisons d'être en retard. Oh oui, il est très très bien.
C'est parce que mon jeu est tellement incroyable que je ne veux pas le montrer aux gens. Donc.
Je risquerais de mourir d'émerveillement.
Moi, j'avais un truc à vous demander par rapport à mon expérience à moi. Le découpage du temps en relève. Je suis pas fan. J'ai eu l'impression que les joueurs avaient du mal à l'utiliser. Moi, je le trouve pas très clair. Pourquoi ce choix, en fait ?
Je pense que c'est mal intégré.
Okay.
Ça a été mis en place de nouveau pour une question roleplay, mm-hmm, mais je pense que c'est mal intégré. Et justement, quand ce que je t'expliquais avant, des sortes de journaux ou de timeline historique automatique, l'idée c'était à fond de jouer là-dessus, tu vois, et puis qu'on s'en rende compte à ce moment. Mais clairement, c'est assez mal exploité pour l'instant, et je suis tout à fait d'accord, c'est un des problèmes qu'on a. Dans l'idée, c'est voilà, une relève, c'est 2 semaines dans le jeu, c'est, mm-hmm, 1 heure en réalité, et puis après on base tout par rapport à ça, quoi.
Ok, d'accord. Ah, c'est 1 heure. C'est ça, mais c'est vraiment la quantification est assez difficile quand on doit. Du coup, j'ai vu pas mal de monde, en fait, en tout cas dans une faction, parler de demain à 10h. Ouais. Puis du coup, ils utilisaient le temps, notre temps à nous et pas celui du jeu.
C'est très difficile, en fait, à changer la manière de nommer le temps. Parce que, mm-hmm, c'est ancré dans nous-mêmes, ouais, et c'est un truc extrêmement complexe, les calendriers. Refaire, mm-hmm, un calendrier, c'est la grosse merde. Et donc, on verra si on le garde ou pas et on verra ce qu'on arrivera à en faire. Mais clairement, c'est une des faiblesses du jeu, tu as raison.
Ok.
Ouais, il y avait aussi une question du même genre, un peu plus spécifique sur. Mais c'est à la tienne, du coup, je vais te la laisser, Sandro.
Vas-y, fais seulement.
Mais j'avoue que moi aussi, je me suis posé la question. Je ne sais pas si c'était peut-être que j'ai une connaissance assez globale du jeu pour réaliser l'importance que ça peut avoir. Mais c'était pourquoi limiter, en fait, la queue de construction, dans le sens où on ne peut pas accumuler les constructions. Est-ce que c'est un choix qui découle de quoi ?
Pas grand chose. Tout au début, on avait mis un champ dans la base de données qui était premium ou pas. Et du coup, les premiums avaient 3 trucs et les non-premiums en avaient 6, un truc comme ça. Mm-hmm. L'inverse. Du coup, c'est resté.
Ok, d'accord.
Non, mais là on l'a, non, je trouve qu'on l'a bien réintégré dans le sens où plus on évolue le bâtiment de base qui admet, mm-hmm, des queues, donc plus on évolue le générateur pour les autres bâtiments, plus on évolue les chantiers pour les vaisseaux, plus la queue s'allonge, en fait.
À chaque fois qu'on en parle, c'est la merde. Hé, hey, Jackie, et pourquoi il y a un problème? Pourquoi la queue, elle est pleine? Je sais pas.
Voilà. Pour l'allonger, alors, c'est mieux.
Jamais ne pas confondre la queue en anglais et la queue en français.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Voilà. Donc, problème de string dans l'arrêt.
La traduction, c'est la liste.
La file d'attente.
La queue en anglais, la file d'attente.
Mais à chaque fois qu'on en parle, nous, on se marre.
D'accord,
c'est
okay.
Con, mais tout à coup,
c'est pour ça que vous l'avez gardé.
Il y a un problème avec ma queue. D'accord.
De toute façon, c'est évident.
Ouais, parce qu'effectivement, moi, l'impression que j'avais, c'est que déjà l'argent, au bout d'un moment, devient de lui-même un limitateur. Rarement.
Et du coup, ce qu'on remarque, c'est qu'on, quand on est au début d'un bâtiment de construction, bah, on est limité par la queue. Mm-hmm. Et quand on... Mais arrêtez de rire, quoi.
C'est
bon.
Difficile.
On peut
est des enfants.
Non, mais dis la liste. La file d'attente.
On est limité par la file d'attente. Et j'arrive pas à dire file d'attente, sérieusement. Et arriver à un certain level, en fait, c'est les ressources qui vont nous limiter. Donc, du coup, avec un bâtiment H-level, ben, il n'y a pas de souci, quoi.
Ouais, ok. Ouais, donc, de toute façon, devient moins importante après. Ok, d'accord, ça marche. Justement, c'est ça où tout à l'heure je me suis dit, il fallait que je rebondisse dessus. Vous êtes tous dans des factions différentes. Comment ça se passe à l'intérieur? Parce que forcément, le but, c'est que les gens qui sont dans chaque faction puissent pas communiquer et se révèlent pas les choses. Vous, est-ce que vous utilisez ça comme un moyen d'équilibrer votre jeu et puis du coup, vous dialoguez sur ce qui se passe dans chaque faction pour les besoins du jeu, ou est-ce qu'au final, vous restez très roleplay là-dessus et puis du coup, vous gardez pour vous et entre vous, c'est un jeu aussi?
Alors, je crois que c'est venu un peu naturellement. On n'a pas mis de règles, mais en fait, on s'est tous éloignés de la politique et du gouvernement pour ça, parce qu'on se dit les choses pour savoir où on en est, mais on fait en sorte de pas influer.
Ok, d'accord. Voilà, ce qui paraît logique.
Par contre, bien sûr, on trouve tous que notre faction, c'est la meilleure. Et puis, si le compte, on se foutra sur la gueule, on se foutra sur la gueule en vrai pour savoir qui c'est qui gagne.
Ok, d'accord. Bon,
l'Empire, objectivement, c'est quand même un peu les meilleurs.
Je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais on en rediscutera.
Oui, c'est ça, oui. Non, les meilleurs, on sait qui c'est actuellement.
L'Empire, ouais.
Non, bah, c'est marqué dans le classement.
Le classement, il est faux. Tu t'es trompé.
D'accord.
Ça, c'est pour les joueurs. On a mis un classement.
Laisse tomber, c'est un chauviniste de l'Empire.
Vous étiez sous notre aile, vous allez revenir.
Ouais, du coup, ça me fait rebondir sur un sujet que je pense qui est super intéressant. Il y a beaucoup de factions différentes. Et en termes d'équilibrage, enfin, dès le début, si du coup il y a des espèces de déséquilibrages, s'il y a une faction qui foire et tout, est-ce que vous avez un pouvoir là-dessus? Est-ce que vous essayez d'harmoniser le jeu ou vous laissez assez libre? Parce que du coup, ça ne doit pas être forcément facile de gérer, j'imagine, cet aspect-là du jeu. Et puis en plus, je pense que vous l'avez assimilé petit à petit en sortant toujours des bêtas, comme vous le disiez avant, rajoutant chaque fois des features pour bien anticiper les conséquences que ça pouvait avoir. Parce que là, du coup, maintenant, il y a quand même une grande communauté. Donc les choix que vous prenez en termes de game design ou de parti pris, ça peut avoir de grandes influences. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de boulot de ce côté-là. Puis je me demandais comment vous opérez de ce point de vue.
Le seul point sur lequel on peut vraiment influer, c'est sur le nombre de joueurs dans chaque faction, en fait. Et ce qu'on fait, c'est quand une faction a un nombre beaucoup trop élevé de joueurs par rapport à une autre, on la bloque. Donc on empêche l'inscription sur cette faction et on met en avant systématiquement la faction qui a le moins grand nombre de joueurs.
Du coup vous intervenez très peu en fait et c'est vraiment les joueurs qui s'accaparent tout.
On s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça, mais on remarque au final que ça s'équilibre assez bien naturellement, quoi. Alors il y a des factions meilleures que d'autres effectivement, mais c'est principalement dû au nombre de joueurs, j'ai l'impression. Mmh. Ou alors au fait qu'il y ait peut-être moins bons joueurs qui s'inscrivent dans certaines factions, je sais pas, c'est aussi dû au hasard. Mais globalement, c'est quand même relativement bien équilibré de ce côté-là.
Ce qui est assez fou, c'est la manière, et je pense que tu vas vouloir rebondir là-dessus, c'est la manière dont les joueurs suivent ce qu'on écrit. Donc quand tu t'inscris, bon, vous avez vu les deux, il y a un texte qui décrit la faction, et c'est hyper drôle. Typiquement, Nerve, dans laquelle tu es, ils sont les premiers, donc ils auraient complètement de quoi défoncer la gueule à pas mal de gens. Mais comme dans leur background, c'est des gens plutôt tranquilles qui produisent, qui font, qui construisent, les mecs ils attaquent pas. Et Kovac, qui est l'avant-dernière faction ou l'avant-avant-dernière faction en termes de puissance, ils font la guerre tout le temps parce que dans leur background, c'est écrit que c'est des putains de guerriers. Et ça c'est fou parce que les gens en fait ont vraiment choisi. Et donc finalement, peut-être qu'ils s'entendent bien. Les gens qui viennent dans la faction parce qu'ils ont le même caractère. Les gens qui vont à Kovac, ils ont envie de faire la guerre et ils s'en branlent des conséquences. Les gens qui sont à Nerve, ils ont envie de construire tranquillement des choses, de se développer et tout.
Surtout, ils ont envie de gagner. Contrairement aux autres, apparemment.
On va pas rentrer sur des sujets un petit peu tendus.
Direct, un petit chauviniste d'une faction menée. Hein.
Et donc ça, vraiment, ça nous a assez marqué, quoi, la manière dont les gens suivent le roleplay.
Surtout des gens avec qui j'ai parlé que lors de l'inscription, ils ont vraiment lu tous les textes qu'il y avait. Mmh. Il y en a pas mal qui décrivent chaque faction, leur culture, leur façon de vivre et tout, leur bonus aussi. Et ils passent vraiment, je pense, 10 minutes à choisir la faction qui match le mieux.
Je t'avoue, moi, j'ai fait partie parce que dès le, quand on fait l'inscription, on comprend très rapidement que c'est hyper important. Quoi. Donc, de ce côté-là, c'est réussi. Donc, tu prends la peine et tu regardes comme il faut.
En fait, c'est là où on remarque peut-être que c'est pas simplement un jeu de gestion par navigateur, mais c'est un RPG jeu de gestion par navigateur.
Clairement, ouais.
Et on sait, comme dans tout RPG, que la partie la plus difficile, c'est le choix du perso, en fait.
Effectivement.
C'est vrai, c'est le qui prend le plus de temps. Et puis.
Et même la tête. Les modèles de personnages, ils sont. Alors, moi, j'ai vu que la mienne de faction, mais ils sont identiques, ou il y en a qui sont réservés à certaines factions.
On aimerait en faire.
Parce qu'il me semble qu'il y en a certains
que
j'avais pas vu. Okay,
ouais, mais c'est un choix. Enfin, c'est du bol.
Ah, c'est du bol. Ouais. Ah, okay.
Mais grosso modo, là, on a à peu près 80-90 avatars différents.
Au début, on voulait en avoir des spécifiques, mais on s'est rendu compte que ça demandait énormément de job pour notre illustrateur. Mm-hmm. Et à l'avenir, oui, peut-être, quand il aura du temps à nous pondre 1000 avatars différents, on pourra les diviser par 7. Mm-hmm. Bon, quoique 1000 ne se divise pas spécialement bien par 7.
On trouvera un nombre, Noé, t'inquiète pas.
Un multiple autour de 1000. Mais non, pour l'instant, la couleur change, mais sinon le reste, non.
Donc dès que vous aurez vendu autant de cartes que Hearthstone, ben, c'est bon, là vous aurez...
Oui, là on en aura beaucoup.
Il y aura tous les avatars qu'il faut. Cool.
On en aura un pour toi exprès.
Ah oh, bah alors, je me réjouis.
Bah, typiquement, c'est une des choses qu'on aimerait par exemple pouvoir faire payer. Ouais, tu parlais de monétisation, ce serait des choses comme ça qu'on irait tout d'un coup avoir son propre avatar. Mm-hmm. Donc on en reparlera peut-être plus à fond, mais c'est dans des
idées. Bah, oui,
ça peut être la classe d'avoir son propre avatar.
Si vous développez sans autre, si vous avez...
D'ailleurs, on les a plus, mais à la Alpha 3, ou... ouais, je crois 3, on avait les développeurs, on avait notre propre avatar.
Ah, et vous les avez plus,
qui était
pourquoi
une caricature de nous en plus.
Et pourquoi vous l'avez plus?
On les a perdus.
Je suis intégré. Moi, je l'ai...
Je crois qu'on les a perdus, objectivement,
mon avatar Google.
Ok.
Je crois, je sais pas si vous les avez toujours.
Je crois qu'on a perdu tout le dossier, mais et c'est probablement
enfin,
ma faute.
On les a
perdus. Je suis
le mon avatar sur Bitbucket. Hein. Je l'ai encore.
Ah bah voilà. Donc
non,
on les
non,
a
la
encore.
La raison sur ce, c'est parce qu'on a changé. Il a changé le style. Il les a fait un peu plus dark les avatars. Avant c'était des aplats de couleurs plutôt.
Okay,
oui, c'est vrai et que là, les avatars au début étaient très très simplistes. On s'était donné un style par rapport à ça. D'ailleurs, on a posté sur Facebook il y a pas si longtemps que ça l'évolution des avatars, la différence entre ceux d'avant et ceux de maintenant. Et ils ont incroyablement évolué. Au début, on était parti sur un style avec, comme disait Jackie, des aplats de couleurs, des poses de forme. Et maintenant,
très
on est vraiment
très BD.
Oui, bon, maintenant ils sont toujours très BD. C'est du dessin, oui.
Mais effectivement, plus dark, plus sombre, un peu plus... oui, effectivement, moi, j'ai un espèce d'avatar à moitié, un peu enfantin, un peu fou, comme ça, avec des cheveux... ouais, comme ça, dressés.
Je vois exactement cool. Lequel.
Ouais, tu vois lequel. Okay. Oui. Donc, les auditeurs ne voient absolument pas, mais moi, je sais de quoi je parle. Donc, je suis très, très content. donc, on peut passer à la suite. Oui, non, mais à part ça, tu disais peut-être qu'on peut développer maintenant aussi les idées que vous aviez. Parce que là, tu disais, il y a peut-être.
Pour la monétisation.
Monétisation, ouais.
Bah, dans l'idée, alors, ce qu'on veut pas, c'est qu'un gars arrive, mettre 300 balles, t'as commencé en même temps que lui et il a 3000 points de plus. Donc, peut-être qu'on va partir sur un truc où tu peux acheter des ressources et des vaisseaux, mais ce sera de toute façon limité par jour ou par semaine. Donc, tu pourras pas mettre plus que tant. Voilà, ça ce serait une des premières idées. Donc après il y a des améliorations graphiques, typiquement avoir ton avatar, avoir des simplifications. On veut pas brider le jeu, tu dois pouvoir jouer autant bien que les autres. Après peut-être que t'auras pas un tableau récapitulatif de toutes tes armées, ce qui est utile quand t'as 30 planètes et 40 000 PEV et puis que tu sais plus où tu es. Du coup là tu peux acheter un premium en quelque sorte. Mais c'est pas un premium qui te débloque des vaisseaux, ça clairement pas. Ensuite on va faire prochainement, c'est le prochain gros chantier qu'on va faire, c'est une appli. Et là, l'idée, c'est que l'appli soit payante.
Ah oui.
Deux balles, un truc comme ça. Mais tu télécharges l'app qui te permet d'avoir ça.
Elle permettrait de gérer quoi, l'appli
Tout. Le site, mais en version mobile.
Ah,
quoi.
Ok. Ah oui, d'accord. Vraiment.
Tout en laissant la possibilité d'un gars que tu peux déjà faire d'aller sur ton mobile et d'aller sur le jeu, ce qui est très, très dur à jouer.
Ah,
il n'est pas optimisé, mais c'est un site web. Du coup, tu peux sans problème le faire.
Okay.
Mais on n'enlève pas cette possibilité, clairement. Si le mec veut y aller et veut pas payer, c'est son choix et ça nous dérange
très
pas.
Très énervant de jouer sur mobile actuellement.
Mais tu peux, si tu dois aller gérer un truc, tu peux le faire.
Ah, tu peux le faire.
Ensuite, il y aura probablement quelque chose qu'on aimerait bien, c'est quand même mettre de la pub, mais mettre une option pour la désactiver pour tout le monde. Mm-hmm. Parce que je suis quand même assez contre la pub. Du coup, si quelqu'un n'a pas envie, voilà.
Pouvoir la désactiver gratos. Ah ouais,
juste en fait, l'idée c'est de compter sur la communauté et son désir de nous soutenir en fait. Donc par exemple, de mettre de la pub et si mettons que la pub elle nous paye au clic, ben de mettre un message dans le forum général et dire ben les gars, on vous file un jeu gratuit, ben vous êtes sympa, vous cliquez une fois de temps en temps dessus et puis de mettre quand même une option. pour pouvoir désactiver la pub, parce qu'on veut surtout pas dire, c'est le gars qui veut pas payer, c'est son droit en fait de pas payer. C'est peut-être parce qu'il a pas envie, parce que c'est un radin, ou parce qu'il a pas les moyens, j'ai pas envie de le juger. C'est, voilà, on met à disposition ce service gratuit, donc on va pas le forcer à payer. C'est ça le truc.
Et on pense que c'est beaucoup mieux. Et ensuite, le dernier truc qui est vraiment un modèle de paiement que je trouverais vraiment hyper intéressant, c'est en fait, donc t'as vu, ça marche sous la forme de serveur. Pour l'instant, on en a qu'un qui est ouvert. On a limité, là c'est 800 places, mais en fait c'est 1500, on monte gentiment pour pas avoir l'impression qu'il soit vide. Du coup, ce serait en fait de sortir par exemple un serveur dans un moment, on estime qu'il faudrait une masse critique de 15 000, 20 000 joueurs, de sortir un serveur payant. Tout le monde paye 10 balles à l'inscription. Le serveur aurait des objectifs, ça c'est aussi un truc qu'on n'a pas parlé, mais c'est plutôt que ces jeux qui ont finalement pas souvent d'objectifs et qui durent des années, bah, ce serait ton coup de dire si tu prends Nerve, le but c'est que Nerve ait 100 millions de points et 8 secteurs et bute l'Empire. Je sais pas si vous avez joué à Medieval Total War, mais c'est vraiment la même idée. Et donc tout d'un coup de se dire, chacun paye 10 balles dans ce serveur, donc grosso modo si c'est un serveur à 1000 joueurs c'est 10 000 francs, le serveur dure 2 mois, et le meilleur à la fin gagne 1000 balles.
Ah ouais, ça c'est...
Ce serait l'idée. Donc on est encore en train de bien travailler sur les modalités, de comment ça pourrait être bien. Ça implique d'abord un jeu super stable et des choses du genre. Mais ça a énormément d'avantages. On tombe sur un serveur hyper qualitatif. Tous les gens qui sont là ont payé pour venir là. On laisse à côté les serveurs gratos. Donc les gens qui, comme disait Noé, n'ont pas les moyens ou n'ont pas envie, le font comme ils veulent. T'as un côté qui est quand même cool. Gagner 1000 balles, moi je trouve ça plutôt sympa. Et puis nous, on se fait, ben, grosso modo, c'est finalement le principe de la loterie, sauf que là, c'est un jeu, quoi. Bon, enfin, c'est le principe de n'importe quelle compétition.
Je trouvais hyper original et intéressant, sérieusement. Après, je me demande si en termes qualitatifs pour la communauté, tu sais, le fait qu'il y ait de l'argent, tout d'un coup, ça ramène des gens débiles qui sont intéressés que par la thune.
Oui, il dit de l'argent, on a le droit de citer des marques, on avait dit.
Oui, bah oui.
Toutes les marques.
Par exemple, pour encore plus réussir à gagner un peu d'argent, faire un partenariat avec, je dis au bol, hein, Sony, et puis offrir une PlayStation 4, tu vois.
Faire quelque chose de sponsorisé.
J'ai un petit truc à dire.
Oui.
Si Mickaël, tu nous écoutes, des petites Xbox par exemple, pense.
Alors oui, et d'ailleurs on va aussi reparler de lui un petit peu après parce qu'il joue beaucoup à votre jeu.
Désolé d'avoir cité Sony.
Donc dans l'idée, ça c'est un des gros moyens de financement qu'on espérait mettre en place, mais pour que ça ramène assez de fric et tout, il faut avoir pas mal de joueurs, c'est clair. Mais après, ça peut être très très bien reçu par la communauté surtout, et c'est aussi pour ça que je te dis, on veut par exemple pouvoir désactiver la pub parce que ça va là-dedans et les gens seront beaucoup plus motivés, je pense, à nous filer de la thune quand on est sympa avec eux. Quand tu forces pas quelqu'un à acheter ton produit, à mettre de la pub partout et tout, je crois que les gens ils sont plus cool aussi.
Effectivement.
Oui. Parce que la pub, faut quand même se dire que c'est une grosse agression et leur demander de payer, c'est aussi une putain d'agression quoi. Enfin, je veux dire, tu peux le faire une fois, dire salut, t'auras envie de nous soutenir, mais si tu commences tous les jours à lui dire hey, c'est payant et tout.
Et viens, paye.
Bah, je trouve ça une agression et c'est normal que les gens réagissent mal au bout d'un moment.
Ok. Ouais, je pense que bah c'est dans l'air du temps. Quand je regardais l'autre jour sur le net qu'il y avait un comique. Belge, je crois, qui justement avait fait beaucoup parler de lui parce que il avait piraté son propre DVD.
J'ai vu.
Dan Gagnon, je crois qu'il s'appelle. Et il l'a mis lui-même en bonne qualité sur Torrent 411 en disant bah voilà, oui, même, faites-vous plaisir, regardez, puis si jamais bah ça vous plaît, offrez-le à quelqu'un.
Et puis il y a plein de jeux indés qui le font, enfin de boîtes indés qui le font parce qu'ils voudraient que les gens qui ont peut-être pas la thune pour le jeu puissent avoir une bonne expérience. Donc
ça,
ils font un crack nickel.
C'est un concept
beau,
qui ressort aussi pas mal sur le web, le prix libre. Chacun met le prix qu'il a envie et même le prix, ça peut être parler autour de toi. Chacun met le prix qu'il a envie et surtout qu'il juge bon pour un jeu. Et du coup, je pense on a vraiment envie d'aller là-dedans et de pas se faire chier là-dessus.
Ok.
Ouais, on n'a pas la prétention de mettre un prix sur ce jeu en fait. Enfin, personnellement, j'ai pas la prétention de dire ce jeu vaut tant pour y jouer. Tu dois payer ça. J'ai envie que le type qui y joue. Enfin, le type ou la gonzesse qui y joue. Hein, mais bon, il y a plus d'hommes qui jouent à ce genre de jeu. C'est dans les statistiques. Oui, d'ailleurs, je m'égare un peu. Mais voilà, j'ai pas envie que le type qui joue se dise ah ouais, ok, pour jouer ce jeu, je dois payer tant. Non, c'est voilà, tu joues au jeu, je te montre ce que c'est, et après, toi, estime ce que ça vaut, quoi. Selon tes moyens aussi.
Et du coup, vous, derrière, l'idée, c'est de dire bah, si on a de l'argent qui rentre, bah, on en vivra, et puis si on va pas pervertir notre jeu pour pouvoir absolument en vivre. C'est ça l'idée.
Exactement.
Voilà, ok. D'accord, bon. Pour moi, on peut passer un petit peu aux questions, alors qu'ils ne sont plus là, forcément les nôtres. C'est justement, vous avez parlé de Mikhaïl, qui est quelqu'un qui joue beaucoup à votre jeu, et on a un petit peu discuté. Lui a posé des questions qui sont peut-être un peu plus pointues, parce que moi, j'ai qu'un mois dessus. Je reste un newbie qui a une vision très lointaine par rapport à des gens qui ont joué depuis beaucoup plus longtemps. Et du coup, je vais passer quelques-unes de ces questions que je trouvais intéressantes. Alors, par laquelle on va commencer? Vous avez parlé du revenu, des revenus des routes commerciales que vous alliez baisser. Et la question était, mais les conquêtes coûtent très cher, rapidement très cher. Est-ce que du coup, vous allez rééquilibrer l'argent que coûtent les conquêtes pour permettre quand même de faire des conquêtes plus facilement, ou le but c'est vraiment de baisser globalement le revenu des gens et que quitte à ce qu'ils puissent moins, que ça prenne plus de temps de faire des conquêtes?
L'idée c'est que tu as un mécanisme qui permet de transformer des crédits en autre chose, c'est le marché, tu peux vendre des trucs et avoir des crédits. Et il est un peu sous-utilisé de nouveau parce que des gens ont 50, 60 millions de crédits et qu'ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils ont quelques grosses routes qui produisent beaucoup trop. Du coup il n'y a pas grand chose à acheter, et le jour où tu auras envie de faire une conquête, tu vends des vaisseaux. Okay. Et donc t'as tout un coup d'autres choix, mais c'est pas exclu, cela dit, qu'on baisse légèrement le prix des conquêtes.
Ok, d'accord. Oui, d'ailleurs avec cette dynamique d'avoir certains qui ont trop d'argent, dans ma faction il y a une banque qui est en train de se mettre en place en fait.
Bon, ça on aimerait l'intégrer de manière réelle par la suite.
Voilà, parce que c'était un peu le but du président de dire on va essayer de mettre ça en place pour que les débutants comme moi, puis qui manquent de ressources, puissent avancer.
Ça s'est mis en place dans toutes les factions.
Ah ok, d'accord, bon, je savais pas.
Naturellement.
Je pensais qu'on était beaucoup plus intelligents que les autres.
Mais
je
en
suis
en
très
fait,
très
non.
triste.
Non, en fait,
je
sais.
De toute façon c'est Négor la meilleure faction.
Vous avez d'ailleurs je crois un QI moyen qui est beaucoup plus bas que les autres.
Ah,
je sais pas d'où ça vient.
Ça directement. C'est quoi? C'est un ratio de clics?
Non, on a notre formule. C'est très très complexe. C'est un algorithme.
Quelle mauvaise foi, tu peux rien dire, c'est les développeurs. Mais...
Non, on a des algorithmes qui font tout en fait.
D'ailleurs, ça m'a fait penser que le coefficient histoire, on en a parlé. Les premiers du classement de joueurs, ils ont un nombre de points qui paraît complètement. Premier a deux fois plus que le deuxième. Comment...
Mais c'est un malade mental, c'est un no life. Dis pas, si tu m'écoutes,
désolé,
je juge pas ta vie et tout, et tu as l'air très gentil. Mais on a vérifié qu'il n'y ait pas de triche et tout. On va là-dessus. Et on pense pas qu'il y ait de la triche. Peut-être qu'il y en a et qu'on n'a pas vu, mais normalement pas. Et c'est juste qu'il joue tout le temps. Le mec a des milliers de pillages, c'est un malade mental.
Ah oui, il est sans arrêt.
S'il triche, il triche très bien. Voilà.
On le laisse tricher vu qu'il triche très
bien. C'est le principe de la bonne triche, effectivement. Tu as le droit de tricher, comme disait mon prof à l'école.
Et je crois qu'il
n'est
pas très content,
pas
il y a
faire 7 voir.
Personnes qui croient qu'il triche.
Ouais, parce que c'est hyper impressionnant. Effectivement, c'est soit... Mais c'est ça le problème. C'est quand tu as des gens très très bons,
mais c'est
on a tendance à dire qu'ils trichent. Mais parce qu'effectivement, il y a des cas, oui. Puis surtout à une époque comme la. Enfin, comme celle actuelle où quand on voit les quand on joue sur téléphone portable et puis qu'on voit les leaderboards sur où il y a des mecs en haut qui ont 20 fois plus que les 10 premiers, ils ont 20 fois plus que le 11e, tu te rends bien compte que là il y a un petit problème puis que les mecs ils vont changer les chiffres autrement. Et du coup c'est vrai que là inévitablement moi aussi je me suis dit le mec c'est bon, il a trouvé un moyen de casser le jeu. A priori pas, donc tu dis parle avec le micro parce que sinon les gens.
A priori pas, mais on cherche toujours, on fait toujours de la vérification s'il n'a pas des multicomptes, des fermes ou des choses du genre quoi. Mais
on est toujours assez attentif à ça, aux multicomptes principalement. Après les bots, c'est un peu plus difficile à détecter, mais on peut le faire aussi avec un peu d'effort. Mais oui, a priori, c'est juste un gros malade qui joue tout le temps.
Qui joue
en fait.
Beaucoup.
D'ailleurs, vous avez une politique assez stricte, j'imagine. Dès que vous trouvez de la triche, c'est banni. Et puis, okay.
Au tout début du serveur bêta, on avait pas mal de joueurs qui avaient des multicomptes. On a mis en avant le fait que c'était complètement interdit. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils se sont tous auto-dénoncés dans l'heure après qu'on ait envoyé ce message.
Peut-être
on
pas
a
tous.
Viré, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont beaucoup. Il y en a une certaine quantité qui sont auto-dénoncés. Je sais pas si c'est beaucoup par rapport à la totalité, parce qu'on peut pas s'en rendre compte.
Oui, c'est difficile
mais...
de se rendre compte.
Et donc du coup, on a supprimé un de leurs deux comptes parce qu'on était sympa, puis c'était le début du truc. Mais maintenant, ouais, si on découvre un multicompte, on bannit tous ses comptes en fait. Et puis après, il peut recréer un compte avec une autre adresse mail, mais s'il se refait choper, on le rebannit. Puis on peut bannir son IP aussi au final.
Et est-ce que les planètes, vous parliez tout à l'heure, vous vouliez favoriser les combats, que vous vouliez vraiment avoir quelque chose très axé combat. Est-ce que les planètes sont réparties au hasard ou est-ce que vous avez vraiment voulu les répartir d'une certaine façon pour aider les, pour inciter au conflit ou pour enfin c'est quoi, c'est du hasard complet ou est-ce que c'est vous qui avez décidé?
Alors pour la répartition des planètes dans la galaxie, en fait, on a fait. Au début, on voulait faire comme une vraie galaxie, là, en spirale, jolie. On a passé. Pour finir, on n'a pas voulu faire ça.
Quel est ce changement
de... à générer, mais... Pour finir, on a décidé que c'était la galaxie de l'œil. En fait, elle est un peu comme ça, parce que la densité de planète, elle est plus. La densité de planète, elle est plus grosse au milieu. Mm-hmm. Et puis après, il y a un anneau autour, mm-hmm. avec la densité plus grande de planète. Et puis les secteurs principaux de l'Empire, de la faction rouge, se situent au milieu, donc c'est là qu'il y a la plus grosse densité.
Ah, c'est pour ça que c'est plus facile en fait.
Et c'est pour ça qu'ils sont fiers d'être de l'Empire.
C'est plus facile tout en étant plus dur parce qu'on a autour de 6 factions qui peuvent nous attaquer. On a pas mal réfléchi à ça, mais ça risque d'évoluer. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut pas changer en cours de route.
Ah oui, c'est comme vous en doutez. Compliqué.
Un truc qui est cool, c'est qu'à chaque nouveau serveur, on peut générer une galaxie différente. Mm-hmm.
Voilà.
Ok, bon bah merci, la réponse était complète.
Mais ouais, par contre, du coup, ça fait écho à un truc qu'on parlait avant qu'on s'enregistre, ce que je trouvais qui était aussi très intéressant. Tu le disais aussi avant. Oui. C'était finalement, c'est un jeu où il doit y avoir de la guerre. Mais il semblerait que généralement, les joueurs préfèrent utiliser des traités diplomatiques et puis éviter les conflits plutôt que de s'envoyer sur la gueule en général. C'est un ressenti qui est juste ou pas du tout?
Oui, enfin, en tout cas, de mon propre ressenti, je commence à un peu en avoir marre de faire que prendre des planètes rebelles et puis de construire des vaisseaux dans mon petit coin.
Donc les rebelles, pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la faction neutre. Qui peuple les planètes de base.
C'est la pseudo IA, on va dire. Voilà.
C'est Gaïa dans Age of Empires.
Okay. Exactement. Et oui, ça fait 2 mois qu'on a lancé ce serveur. Il y a eu des pseudo bouts de guerre qui sont entamés entre certaines factions à gauche ou à droite.
Non, il y a eu des bonnes guerres.
Ouais, non, il y a eu des bonnes guerres.
Sinel et Kovac, ils ont été en guerre pendant un mois.
Ils ont été en guerre royale.
Putain de guerre là.
Ok, bah je l'ai pas du tout ressenti. Et puis alors il y a eu une guerre.
Pas assez de violence. Partant,
mais lui, ils ont une faction de commerçants et du coup il s'en rend pas compte. Mais il y a eu des belles guerres. Nous on a fait une putain d'OP sur Nerv. Enfin contre les joueurs.
Les joueurs qui ont été hors la loi. Donc c'était pas les nôtres.
Là,
c'était pas les nôtres.
Au final, c'est quand même.
Nous aussi, on
a
fait pseudo guerre contre Charman.
Non, il y a clairement pas assez.
Bref,
on va refaire toute l'histoire du jeu, mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas, c'est soit tous les joueurs qui ont peur d'ouvrir une offensive,
ou alors, comme on en parlait, vous avez un pourcentage de joueurs suisses qui est de combien?
60-70.
Est-ce que, justement, moi c'est ce que je suggérais tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait pas simplement de problématique
là-dedans?
Dans
le stéréotype et le cliché, mais c'est quand même tentant.
Non, mais
c'est quand même tentant. Mais oui,
ça me rappelle une anecdote. Je vais vous faire chier avec une anecdote, mais je trouve qu'elle est très parlante par rapport à ça.
C'est la petite anecdote.
Ah, très très bien, celui-là on va le garder. Donc, la petite anecdote, j'étais à Bristol en échange quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, on était une bande de potes qui venaient d'un peu partout. Et on s'écharpait sur, ah oui, je crois, la fumée dans les bars. Et à l'époque, chez nous, c'était encore fumeur. Et il y en a qui trouvaient que c'était très bien, il y en a qui trouvaient que c'était pas bien. Et moi, au bout d'un moment, j'ouvre ma gueule, puis je dis, moi, je trouverais bien qu'il y ait des bars où on peut fumer à certains endroits et puis pas à d'autres endroits. Et là, tout le monde me réagit, et voilà, le Suisse. Et voilà le Suisse.
Compromis.
Il n'est pas foutu de prendre parti d'un côté, il est obligé de donner cette espèce de milieu insipide. Et du coup. Et du coup, je dois dire, voilà, pourtant, c'est pas forcément dans mon caractère, mais je pense que quand on grandit ici, peut-être que de par notre système politique, il y a quand même, si on n'était pas comme ça, notre système politique ne pouvait pas marcher. D'ailleurs, je crois qu'ils ont essayé de l'implémenter dans un pays d'Amérique du Sud, et ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a une espèce de culture chez nous du compromis qui est hyper ancrée. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression. Donc, je me demande si... Voilà, ça serait intéressant de voir un serveur entièrement constitué, je ne sais pas, d'autres gens, d'autres pays, de Français, de pour voir si le conflit...
De gens de la République d'Andorre, ouais.
Voilà.
Du coup, il faudrait que tous les gens de la République d'Andorre jouent au jeu pour que
exactement.
Ça tourne.
Voilà.
Non,
un petit serveur.
Juste voir si ça génère...
Non, mais t'as raison. Après, je pense que t'as surtout des tensions géopolitiques, hein, comme dans le monde actuel. C'est juste que personne ne veut déclarer la guerre parce qu'il va se faire tomber dessus par plein d'autres. Et je pense que c'est juste, moi je discute de ça avec Sébrutus Ier, qui est l'empereur actuel de l'Empire, paix à son âme et grandeur soit-elle. Et donc, ça veut rien dire,
un truc, ça faisait un peu... On voit que tu voulais faire hommage à l'Empire,
mais justement. et il dit, en fait, c'est juste le bordel, personne ose parce qu'il y a tellement d'enjeux. Alors, mm-hmm. C'est con à dire parce que c'est un jeu et tout, et on devrait s'en foutre. Mais il dit, il y a tellement d'enjeux, tu te rends pas compte, on a ça, 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 on a des alliances ici et tout. Et du coup, il dit, mais on peut pas déclarer la guerre.
Ah, c'est super tendu, on voit un joueur qui part, un joueur d'une faction qui part attaquer l'autre faction comme ça de son propre chef. Il se fait tout de suite réprimander par ses supérieurs, par les dirigeants de la faction. C'est hyper tendu, la situation est tendue. J'espère que ça va éclater un de ces quatre, parce que pour l'instant ça bouge pas trop.
Moi je mets des messages sur le forum où je dis je veux la guerre.
Ah d'accord.
Ouais, moi j'ai hésité à le faire parce qu'on s'était dit qu'on allait quand même pas trop influencer la politique, mais je pense qu'on va gentiment essayer de lancer le truc parce que ça commence à stagner.
Et pourquoi est-ce que vous vous cacheriez pas derrière l'IA en fait?
On a pensé, on aimerait bien par la suite mettre des événements.
Pour provoquer des choses et puis que ça, ouais, ça provoque.
Je parlais justement de Medieval Total War. Ben finalement, si t'as joué à Medieval Total War, l'arrivée des Mongols, je trouve quelque chose d'assez, au niveau du script, assez intéressante. Et on aimerait pouvoir coder ça tout d'un coup, je sais pas, une arrivée d'une faction qui soit commandée par nous, par des IA, et qui commence à foutre le bordel et qui redéfinisse complètement la carte géopolitique.
Et que ça force du coup que ça change les alliances actuelles et que ça Exactement, force les gens à prendre des décisions et à peut-être se rentrer plus dedans.
Mais c'est difficile à implémenter pour que ce soit propre et donc ça prend le temps de nouveau.
Ok. Ok. Oui, il y avait. Bah là, moi j'avais encore. Ça ferait une bonne transition pour les questions sur la Suisse. Mais, mais avant, quelles ont été. On voulait juste poser une dernière question par rapport au jeu. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile? Est-ce que dans le processus du jeu, est-ce que vous avez connu vraiment des choses particulièrement ardues ou ça s'est plutôt fait dans la tranquillité?
La gestion asynchrone des événements, ouais.
Ouais.
Non, grosso modo, le.
C'est-à-dire.
tu parles en termes de programmation.
Ouais, ouais.
Du coup, okay, d'accord.
Ah, d'accord, en termes de programmation. Ouais, moi, je suis pas du côté. Ouais, alors, toi, tu tiltes, moi, je tilte pas.
C'est le plus gros souci en termes de proc qu'on a eu, mais c'est pas chiant en fait. C'est plus un joli défi technique pour nous d'avoir pu résoudre ça. Sinon, moi personnellement, je suis un peu le chef de l'équipe. Du coup, la gestion de l'équipe, des fois, est un peu difficile. Ce qui est compréhensible parce qu'on n'est pas payé. Chacun a le temps qu'il veut bien donner. Et puis chacun aussi a d'autres envies et a pas tout le temps des. Enfin bref. Et du coup, pour moi, ça c'est un beau défi. Mais je crois que dans tout ce qu'on a fait, il y a rien qui m'a fait chier. Je pense que tout était bon à prendre. Si maintenant on arrête le jeu, franchement, j'ai pu que apprendre sur ce projet. J'ai appris à gérer une communauté, j'ai appris un peu aussi à gérer une équipe, à bien parler avec d'autres, à bien programmer, vraiment de tous les côtés. Et personnellement, pour moi, c'est la classe quoi. Il y a pas tellement de trucs qui m'ont cassé les couilles.
La question était, ce qui a été le plus dur à gérer sur le projet?
Moi, si jamais je suis parti pisser, j'ai pas entendu.
Oui, moi.
Ce qui a été le plus dur à gérer.
C'est pas essuyer les mains.
C'est pas... Ouais, c'est dégueulasse. Vous allez attraper des choses, les auditeurs vont attraper des choses.
Micro
personnel.
je me suis clairement lavé les mains. Non, ce qui a été le plus dur, c'est de se lever le matin quand on fait des putains de soirées code qui finissent à 23h30 au chalet de Gilles et puis qu'on doit se lever à 8h le matin pour recommencer à coder.
Ouais, on a fait il y a 2 ans l'été 2 semaines complètes où on était une semaine à un chalet et une semaine dans des bureaux où on était toute l'équipe, donc aussi les autres, pas que les programmeurs, parce que nous on fait souvent des journées ensemble et ça c'était tellement cool et on aimerait avoir le temps d'en refaire d'autres où tout d'un coup vraiment tu bosses dans le projet de, comme il dit, de 9h du mat à minuit, t'es dedans, tout le monde se parle, les idées viennent, ça avance, c'est hyper bien.
C'est vrai que c'est le moment où on est le plus productif, quoi. On est vraiment dans l'histoire, on se côtoie pendant 5-6 jours, on se côtoie tous, on a le temps de discuter du projet, de son avenir, on faisait tout le temps des réunions, enfin tout le temps, chaque temps de temps, des réunions spécifiques. Enfin, on avait vraiment organisé le truc, Gilles particulièrement avait organisé l'histoire où il avait prévu des réunions qui portent sur tel sujet, tel jour, à telle heure, etc. C'était assez drôle. Alors après, oui, c'était difficile de se lever le matin, mais on le fait avec plaisir parce que ça nous faisait plaisir de programmer pour ce jeu.
Okay.
Et un truc qui est marrant à dire, c'est que cette année, c'est un peu différent parce qu'on est la moitié à Fribourg et l'autre moitié en Valais. Mais avant, on était tous en Valais et en fait, on faisait une fois par semaine une soirée code. Et du coup, on allait chaque fois chez un de l'équipe, et puis on mangeait, et après on bossait pour le jeu toute la soirée.
Ok.
On essayait de pas faire trop tard, et puis vraiment, une fois par semaine, on tenait le truc, et puis c'est comme ça que le jeu avançait.
Okay, donc ça, c'est plutôt les bons moments au final.
Ah, c'est clairement les bons moments.
Ah, c'est
et
génial.
Puis on a aussi découvert les talents culinaires de chacun de nous. C'était pas
oui, c'est ça.
C'est un peu le dîner presque parfait.
Oui, oui,
le codage presque parfait.
D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller lire les billets de blog, mais pas seulement ceux qu'on sort maintenant, mais les vieux billets de blog.
Les vieux billets de blog, on parlait plus de nourriture, de ce qu'on avait mangé le soir, de qu'est-ce qu'on avait codé. Quoi.
Quand tu vois les titres, il y a soirée hamburger, soirée pâte, soirée raclette, encore une fondue. Je sais
encore
plus
une fondue.
Jackie faisait des fondus tout le temps.
En fait, j'ai fait deux mais... fois et après il me reprochait de faire tout le temps des fondus.
Ouais, ouais, enfin, ouais,
et
mais ça...
il neigeait, il faisait froid.
Bah, oui, puis de toute façon, l'hiver, on est des Suisses, on mange tout le temps des fondus, non?
Puis on mange du chocolat aussi.
On est valaisans, on mange tout le temps des
fondus. On a plein d'argent, on mange des fondus et du chocolat. Et voilà.
Et d'ailleurs, ça coûte pas cher les fondus, c'est ça le paradoxe.
Ben non.
Non, le meilleur.
C'est comme ça qu'on a beaucoup d'argent parce qu'on mange
que ça coûte pas cher, c'est que c'est vite fait.
C'est vrai.
Plus de temps pour
même
coder.
Si je suis un foutu d'en faire une correctement, mais ça c'était l'anecdote 2.
On parle
mais du coup ça donne la
ah bonne, les fondues.
Oui non mais toi t'as déjà répondu.
Date transition Sandro.
Date transition la fondue bien tout joué. Ça la Suisse c'est magnifique. Est-ce que tu veux un peu parler de la Suisse? Parce que j'arrête pas d'ouvrir ma gueule et j'empêche que tu ouvres la tienne. Alors vas-y fais seulement.
Au niveau de la Suisse, moi j'avais une question. Bah, vous avez dit que vous avez quand même une petite majorité de joueurs qui sont donc qui viennent de Suisse. Si je ne dis pas de bêtises, c'est juste.
C'est juste.
70%. Du coup, en termes de communication, comment est-ce que vous êtes profilé dans le paysage culturel actuel, enfin, les vidéoludiques ?
On n'a pas du tout. En fait, comme ça s'est fait, on a lancé des bêtas où on a demandé à nos potes.
D'accord.
Donc ça ouais. s'est propagé là-dessus. Ensuite, on a eu All of Game qui a ramené un certain nombre de joueurs. Là, c'était complètement suisse, forcément. Et après, à la sortie de la bêta, on a surtout mis des messages sur les forums, des forums un peu spécialisés, des choses comme ça. Et donc là, c'est plutôt français. Donc on a des Suisses, c'est surtout par le bouche à oreille qui sont venus. Et maintenant, on essaye d'ouvrir un peu partout. On a quand même des Belges, des Canadiens, des mecs de pays super bizarres qui jouent. Mais majoritairement, c'est des Suisses, ben voilà, parce que ça s'est propagé au début par la Suisse. Et puis que ça se propage pas mal par bouche à oreille, des choses du genre, quoi. Mais on va ouvrir à tout. J'ai pas l'impression qu'on a voulu et qu'on a une volonté de mettre un jeu très suisse.
Ok. Ah bah justement, ça devance la question suivante, où l'idée est, voilà, est-ce que pour vous, il y a une identité suisse dans le jeu vidéo qui est possible, ou est-ce que pour vous, ça n'a aucune importance et que le jeu vidéo, c'est international avant tout, ou d'autres avis ?
Personnellement, je pense que c'est plutôt international. Après, c'est sûr qu'il y a une culture à chaque fois. On voit la même manière pour les films ou quoi que ce soit. Tu as des films très américains, tu as des films très français, et du coup, on remarque effectivement que les jeux, on va dire, non américains sont un peu plus du jeu indé, donc souvent un peu plus, on va dire, du jeu d'auteur. Mais c'est plus un état de fait du fait que les gros studios sont américains, pas que.
Il y a Ubisoft. Hein.
Non, d'accord, mais c'est aussi pas mal basé au Canada et des choses comme ça. Il n'y a pas toute la production qui se fait en France. Et les auteurs sont pas forcément énormément des Français, tu vois ce que je veux dire.
Oublie pas le Japon aussi.
Ouais, ok. Mais je veux dire, donc à part ces deux gros pôles qu'on a l'habitude, c'est un peu plus du, on va dire, du jeu d'auteur. Après, tu parles d'un truc suisse, j'en profite avant de laisser la parole aux autres. On aurait trouvé, par exemple, Tripé de sortir un serveur du jeu. Suisse, donc où chaque faction ce serait un canton.
Wow,
avec
ça,
des spécificités. Un truc délire,
c'est dangereux, mais c'est clairement génial.
C'est un peu tard maintenant, mais l'idée c'était de surfer sur la vague de la guerre des romans à l'époque avec les Valaisans dans l'espace qui étaient sortis et d'avoir un canton roman par faction. D'ailleurs, il y a, je sais pas si je compte comme ça, mais il y en a peut-être à peu près 7. Et on aurait pu faire un truc là-dessus, ouais, les Neuchâtelois contre les Valaisans, etc.
Les Genevois contre les Vaudois et tout.
Ça aurait été drôle.
Là, du coup, le principe de jeu vidéo suisse.
Tout le monde contre les Genevois.
Tout le monde quand les Genevois, bah non, les Genevois, ça tu peux, on peut pas les mettre dans les cantons suisses, ils sont pas suisses, ils sont français, non.
Non bon, à part ça, on aimerait attendre un maximum de joueurs possible, et je suis sûr qu'on a plein à Genève qui seraient heureux de jouer à nos jeux, donc on va pas commencer à les insulter.
Comme il est consensuel.
Comme il est horriblement consensuel. Non, les Genevois, venez jouer.
Suisses.
On vous aime pas, mais venez jouer. est-ce que, bah, toujours concernant la Suisse, est-ce que pour vous la scène suisse? La scène du développement suisse, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que ça a une importance particulière pour vous? Ou est-ce qu'au final vous êtes dans votre coin, vous développez dans votre coin et c'est pas, ça vous touche pas particulièrement?
Bah, disons qu'il y a environ 4 ou 5 ou 6 mois ou 5 mois, quelques mois,
oui.
On a été invité à un meet-up de game developers à Lausanne.
Ah, j'ai entendu dire que c'était trop bien.
Ah ouais, ça c'était tellement bien. Et en fait, on connaissait pas du tout. Et puis on a été invité par Loïc Dubout.
Mm-hmm.
Parce qu'il avait entendu parler de nous par un gars qu'il a interviewé en France, je crois.
Ok.
Bon, c'est assez marrant de savoir comment il nous avait connus. Ouais. Mais du coup, il nous a invités. Et puis, on est allé à ce meet-up qui se déroule une fois par mois dans un bar de Lausanne. Et puis, on y est allé. Et on y va chaque mois quasiment. Mm-hmm. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on rencontre des gens qui ont la même passion que nous. On peut échanger sur comment... On se donne des astuces, quoi. Et c'est vraiment sympa. Et okay. Puis, je pense que ça nous a fait connaître plusieurs personnes qui nous ont permis de nous faire connaître aussi.
Nous.
Notamment vous. Ouais.
Voilà, ouais. Bah oui, effectivement, le truc est parti, de là aussi.
Après, je crois que quand on a commencé, on n'avait vraiment aucune idée de la scène suisse du jeu vidéo. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait forcément besoin d'une scène suisse. Ce qui est fait... au meet-up, c'est très intéressant parce qu'on réunit géographiquement les gens qui ont la même passion et c'est très intéressant. Mais je crois que dans le jeu vidéo, t'as peut-être éventuellement une scène francophone, voire une scène européenne, mais une scène suisse, ça me paraît un peu overkill pour la production qu'on pourrait avoir. Qu'il faut le développer, c'est pire intéressant. Mais j'ai pas l'impression, enfin pour moi, c'est très international le jeu vidéo.
Ok.
Ouais, j'aimerais rebondir sur ce que dit Gilles par rapport à une scène francophone. C'est vrai qu'on voit quand même
un
clivage de langue par rapport notamment à la Suisse allemande. Et c'est vrai qu'un jeu vidéo, surtout un jeu comme le nôtre, passe avant tout par du texte. Et c'est super compliqué de se dire ben, ce jeu, il est pour la Suisse. Non, il est avant tout pour la francophonie. On peut pas se permettre de limiter à la Suisse romande. Ça limiterait tellement le nombre de joueurs qu'on aimerait atteindre.
Non, mais plus du point de vue des appuis, en fait, duquel vous pourrez bénéficier. C'est-à-dire que Vutraire, lui, a profité pour son jeu d'appui avec, c'était quoi? C'était le
Call for Project avec le Pro LVCR.
Pro LVCR. On a essayé, ils n'ont pas voulu.
Ils n'ont pas voulu votre jeu?
Non.
Ah, ok.
Mais notre jeu est assez difficile à vendre, en fait, sans y avoir joué, déjà, premièrement. Et puis après,
est-ce qu'on refuse un jeu sans y jouer? C'est juste la question.
Non, mais par exemple, on l'a proposé aussi pour cette année. Il y avait un truc à l'Odysseus. Et je crois que la personne qu'on parlait avant, à savoir Mandur, donc Mike,
parti du jury.
Il faisait partie du jury et il a dit votre jeu est super, mais il est en français, le jury là-bas est anglais-allemand. C'est un jeu extrêmement orienté sur la langue. Mm-hmm. Du coup, on a un jeu objectivement qui, dans les concours, est difficile à vendre.
Okay.
On le comprend bien en Suisse aussi. Après, c'était quoi la question?
Non, bah, c'était l'idée de savoir si vous pouvez bénéficier. Le côté d'appui, en fait.
Donc maintenant, avec Bex, les gars vont essayer de chercher des appuis, mais des appuis, on va dire, standards, que l'État donne assez souvent. Voilà. Nous, j'organise un festival et on a l'habitude de demander des soutiens à l'État et des choses comme ça. Notre jeu, c'est de la culture, du coup, on va tenter les mêmes approches, mais c'est pas du tout spécifique aux jeux vidéo. Du coup, on prend appui sur les institutions suisses de financement. De la culture, mais pas spécifiquement sur les trucs du jeu vidéo.
Ce qui est compliqué, surtout si je peux me permettre de rebondir, c'est que le jeu vidéo commence enfin maintenant, d'un point de vue helvétique, justement à s'inscrire dans ce paysage culturel, puis que du coup, à juste titre, il pourrait bénéficier de ces aides que d'autres médias ils utilisent déjà depuis un petit moment. Et c'est là le moment où justement on est un peu les pionniers pour pouvoir justement se mettre en avant, puis dire nous aussi on fait du produit culturel, on a le droit d'être aidé au même titre que les autres. C'est un peu là en fait, où la chose se joue. Il y a pas mal de trucs en jeu.
Et c'est assez difficile, ouais.
C'est assez difficile, mais c'est intéressant.
Financer un festival, toutes les assos, tu prends des trucs, la loterie romande ou des choses comme ça qui financent volontiers, c'est rentrer dans les. Voilà, c'est normal. Financer un jeu vidéo, c'est déjà plus compliqué.
C'est vrai que c'est plus compliqué, mais les mentalités changent, mais c'est à nous de les faire bouger.
C'est clairement à nous, elles changent gentiment. Pour l'instant, le jeu vidéo, c'est quand même bien ancré dans la mère de famille de base que ça fait que son fils, il devient un serial killer.
En Suisse.
J'ai l'impression pas tellement, enfin justement ces dernières années.
Je crois que ça a beaucoup changé. Sérieusement,
disons que la Suisse effectivement est un peu à la bourre, hein. ça c'est indéniable de ce point de vue-là.
Oui, mais de tous les côtés.
Mais quoi, tu me regardes avec un regard.
Mais la Suisse pas forcément.
La presse suisse.
Alors possible que la presse
allemande est beaucoup des médias, plus ouverte à ça que la Suisse romande. Typiquement.
Alors, je sais pas, la Suisse allemande, j'ai un peu de peine, je parle pas l'allemand, donc je ne connais pas du tout comment c'est représenté, mais je trouve qu'en Suisse romande, ça traînasse au niveau de la représentation dans la.
Voilà,
c'est
clair aussi, parce que ça veut pas dire.
Ça traînasse aussi au niveau de.
Non, ça veut pas dire que les mentalités derrière sont pas. Mais disons que, effectivement, la presse est pas très. Comprend pas très bien ce que c'est, contrairement à la France ou contrairement à d'autres pays où on sent qu'il y a quand même plusieurs médias qui poussent.
Mais
en
ça
avant.
Bouge.
Voilà, ça
voilà,
bouge,
ça
bouge.
On
exactement.
On se rend compte qu'il y a énormément. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui jouent, de tous les côtés, qui jouent tous les jours, et que c'est vraiment quelque chose de culturellement qui est puissant, quoi.
Que c'est plus. Ouais, qu'il n'y a plus de questions à se poser si c'est dangereux ou pas, quoi. Qu'il faut passer à autre chose.
Ouais. Sinon, aussi, non, les la question de Quentin Tarantino, c'est aussi dangereux.
Si c'est.
Si c'est un art ou pas.
Oui.
C'est ça la question plutôt à développer.
Voilà, effectivement, qu'on peut tout à fait discuter, qui est beaucoup plus intéressante à discuter que l'idée de.
Si c'est dangereux ou pas.
Dangereux ou pas. Oui, ça peut être dangereux, ça peut ne pas l'être, c'est pas très intéressant. Mais bref, on s'éloigne de vous.
C'est pas grave.
C'est très grave.
C'est hyper grave.
Je suis pas du tout influençable.
Est-ce que t'as d'autres...
Nous en profitons pour dire que notre site se trouve sur asilamba.com.
Ah oui, oui. Alors allez, maman pub, juste... maman pub.
S'il y a des gens qui ont écouté jusque-là, ils auront enfin découvert le nom du site.
C'est ça, Asilamba.
Et le site de notre illustrateur s'appelle macala.ch, ils peuvent aller aussi dessus.
Magnifique. Je pense que si on va sur votre Facebook, on peut trouver aussi les liens.
Oui, bien sûr.
Et surtout sur notre Twitter.
Ah, vous êtes plutôt Twitter.
Et on a quand même 800 abonnés. Hein.
Oh, c'est classe.
On a trouvé un hack pour. On a hacké Twitter.
Hacké Twitter. Ah, y a des, je veux pas donner des noms, mais j'en connais qui achètent des abonnés.
Ouais, on l'a
j'en
pas fait.
J'en connais aussi.
Voilà. On a clairement pas mais fait. On a pas vraiment d'argent pour acheter des abonnés.
Ouais, ça coûte
on
pas
achèterait
si cher,
des bières hein. Avant d'acheter des abonnés.
Je pourrais acheter des bières aux abonnés. Je pense qu'il y en aurait beaucoup
non,
plus.
Non, mais ça, c'est cher.
Ça viendrait plutôt local, un peu helvétique dans l'esprit.
Ça serait bien. Ça serait très bien. Bref, du coup, on a fini avec la Suisse ou bien t'as d'autres questions suisses?
Non.
Merci. Merci de cette participation active.
Au moins, elle est authentique et sincère. Hein. Ah,
totalement
non,
sincère.
Mais non, mais c'est parce que le point suivant me titille beaucoup et je me réjouis d'aborder. Oui, d'aborder,
mais je peux poser parce que c'est ma question.
Ah, je sais. Ouais
allez, sinon, vas-y. Je boude et je parle plus qu'à la fin.
Parfait. Alors, du coup, on fait la question. Ah, vas-y, Sandre.
Non, alors, j'ai une question que je pose à toutes mes interviews qui, au préalable, étaient papier, mais que c'est un peu long. J'avais dit justement qu'on faisait cette fois. On essayait ce format. D'ailleurs, ça sera aux auditeurs de dire aussi si c'est bien ou pas. Mais
niveau papier, t'en aurais chié. Hein.
Ouais, là, j'en aurais chié. Mais justement, la dernière fois, j'avais fait avec Sunnyside. J'avais trouvé cool. Ils ont dit plein de choses. Et au final, ça met 1000 ans à transcrire. On peut pas tout retranscrire. Et puis, du coup, ça rend hyper pauvre. Et du coup, je trouve que le format là me paraissait plus approprié.
Encore que les gens aient le courage de tout écouter. Là.
Oui, oui. Voilà. Mais bon, ça, dans la voiture, sur les toilettes, voilà, il n'y a pas d'image, donc on peut en faisant la cuisine, c'est ça qui est cool avec le podcast. Donc le dernier point, je pose toujours une question à la fin qui est le premier et le dernier jeu qui vous a marqué chacun.
Ah, moi j'ai une réponse
ça
déjà.
Fait toujours Stéphane là.
J'ai une réponse claire et nette. Plus inspiré. Dit quand tu veux, moi le premier jeu c'est Rayman.
Ah ouais, ok.
Évidemment.
PlayStation,
ouais, la première PlayStation, ouais, le premier Rayman, c'était un jeu que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai joué aux autres aussi. C'est une série que je surkiffe abondamment. Excellent.
Voilà. Non, je montrais que j'ai Rayman.
Non, d'ailleurs, en fait, j'ai pas encore joué à Legends. J'ai joué aux quatre autres et pas à Legends.
Alors, à y jouer sur Wii U, nulle part ailleurs. Hein. Vraiment, je t'en supplie.
Ah ouais, sur Wii U, ok.
Sur PlayStation, ça marche.
Je t'avouerais que je vais pas m'acheter une Wii U exprès pour.
Non, mais alors vraiment, non, mais alors, je suis pas pro.
Grenouille, tout le monde s'en fout, arrête, sérieux.
Alors, écoute, ma copine va arriver bientôt. Tu lui redis ça, tu vas sortir très très vite parce que. C'est la seule intérêt du jeu pour
elle. T'es sexy sans faire exprès. Okay.
Ah horrible. Non, mais je suis pas sexy, c'est que c'est une vérité vraie. Elle a dit, moi, Rayman, je le trouve moche. Et du coup, il a aucun intérêt, c'est beaucoup plus drôle de jouer avec le doigt.
J'ai surkiffé Origins.
Et c'est pas du tout facile, hein. Contrairement. Tu vois, c'est toi qui fais le sexiste. C'est toi qui fais le gros sexiste. Parce que t'en déduis que comme
Pixel
c'est
Gate,
tu
voilà,
vois,
c'est pas...
tout de suite, non, mais il devait nous expliquer. Parce que c'est tactile, tu décides que c'est facile. Alors ça, c'est très moche. Et parce
non,
que c'est une femme,
c'est tactile, c'est pour les femmes.
Voilà, et c'est pour les femmes.
Donc, c'est voilà. Vrai, je le rejoins.
Ah, alors là, tu sauves la fête.
On est d'accord, c'est bien. On est d'accord.
Donc, oui, Rayman sur
oui,
Wii U.
Oui, Rayman, non, je suis un grand fan de plateforme déjà à la base. Et bon, je vais pas citer d'autres trucs. J'adore la gestion aussi. J'adore Age of Empire. Pharaon aussi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Qui est un jeu Tira. On a dit qu'on pouvait citer des marques. Et le dernier jeu qui m'a marqué, c'est sans problème, c'est The Evil Within.
Okay. Ah ouais, donc récent. Ouais,
qui okay. Est, oui, ben, le dernier, tu m'as dit le dernier.
Oui, bien sûr, non, mais parce qu'il y en a qui m'ont répondu des jeux d'il y a 5 ans, et puis que depuis, ça leur a
non,
rien,
non, je l'ai acheté à sa sortie, je l'attendais un petit peu. J'ai été extrêmement contenté par ce jeu qui te met dans une situation
ça
extrêmement
la remplit.
Oppressante.
On parlait de queue avant.
C'était génial. Non, c'était génial. Alors oui, les deux jeux que j'ai cités sont complètement opposés, c'est clair. Mais non, The Evil Within te met dans une situation complètement
il arrive
oppressante.
À rester,
Ah non, mais les queues ne les branlent pas. Les queues ne les branlent pas.
Difficile d'être sérieux avec ces trucs. Là, j'ai trouvé l'ambiance incroyable, ouais.
Très dur, hein,
quand
très
je dis
profond.
Graphisme, non, je parle pas de la qualité graphique, je parle de la
l'ambiance,
beauté. La photographie. La photographie du jeu, je trouve que c'est assez un jeu qui pourrait entrer dans les classiques de l'horror survival.
Ouais, ok, d'accord. Bah, okay. Fait par pas n'importe qui, mais justement, il a été très critiqué, donc c'est marrant parce qu'il y a des, gens qui l'adorent ce jeu, il y a des gens qui le détestent.
Ah, je sais bien, moi je fais partie des gens qui l'adorent. Je pense que c'est. Vraiment... Et c'est la première fois de ma vie où j'ai sursauté un putain de jumpscare, et franchement, ça veut tout dire pour ce jeu. Quoi.
C'est vrai, autant d'années après Resident Evil.
À me faire ça, quoi.
Parce que Noé n'a pas peur.
Noé n'a pas peur.
Non, je suis un putain de viking.
Voilà. Et donc les autres ?
Alors moi je joue beaucoup, alors je joue pas à énormément de jeux, j'ai jamais joué sur console, enfin à part chez les potes, mais j'ai jamais eu de console, donc c'est exclusivement du PC premièrement. Et ah puis c'est beaucoup de la stratégie et de la stratégie et puis ouais de comment je voulais dire ça, mais on va rester sur de la stratégie. Et de la gestion, ouais, c'est ouais. Ça que je voulais dire.
Les 4X, donc, des choses comme ça. Les 4X, c'est civilisation, ouais. Choses comme ça. Ouais.
Mais donc, le premier jeu, je pense, qui m'a énormément marqué, c'est Homeworld.
Ok, ah ouais.
Dont est basée une petite partie de l'imagerie d'Asylumba, quand même. Et ensuite, dans la même période aussi médiévale, toute la série des Total War, ouais. Où je trouve le concept assez hallucinant. Et puis, alors là, c'est dans un autre contexte et j'y ai pas joué, mais ça m'a marqué et je sais pas pourquoi je n'y ai pas joué pour l'instant. Mais c'est Don't Starve, le dernier, on va dire, qui m'a un peu marqué, surtout au niveau de l'univers graphique.
Okay.
Je suis extrêmement sensible à comment c'est mis en scène et comment aussi même tout ce qui peut être des boutons et des trucs autour. J'ai besoin que ce soit fin, que ce soit bien fait et cohérent. Et du coup, ça me saoule si ça l'est pas.
Ok, d'accord. Donc, Don't Starve. Okay.
Don't Starve, vraiment, ouais. C'est
et
vraiment
puis jouer, quand tu as joué, qui t'a vraiment, auquel tu as beaucoup joué.
C'est Medieval et Homeworld.
Ok, mais même dans les derniers temps.
Ouais, mais justement, Medieval, c'est un peu un des derniers auxquels je joue. Okay. Encore pratiquement tous les jours.
Ah, donc, tu es un fidèle.
16 fois toutes les campagnes.
Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, donc quand tu dis que tu joues, tu joues.
Je trouve que c'est un jeu qui a pas vraiment de fin et puis qui est un des meilleurs genres du monde. Voilà.
Ok. Jackie ?
Alors moi je dois avouer que je suis pas un très grand gamer.
Okay.
Je suis un peu l'imposteur de l'équipe. Mais j'avais une PlayStation 2.
Okay.
Et puis je jouais notamment à Time Splitters.
Oh, Time Splitters grand.
À Splashdown et tout autre SSX.
Ah, SSX.
Mais la meilleure série de jeux que j'ai joué, c'est Ratchet & Clank. J'adorais.
Okay. Très belle.
Et sinon maintenant je joue pour être franc, je joue vraiment plus beaucoup.
Okay.
Donc je dirais que les deux derniers jeux que j'ai joué, c'est Asylumba et puis La Firme de Sunnyside.
Ah ouais, alors c'est beau ça.
Ça c'est un jeu.
Ah, ça joue Suisse. Ça joue Suisse quand même. C'est beau ça.
Et je voulais télécharger First Strike, mais j'ai plus la même carte de crédit, du coup j'ai pas pu payer les 3,50 de l'app.
Ah, ça c'est ballot.
Pour le tester. Du coup il faut que je mette à jour mon compte. Hein. Bref.
Chouette, d'ailleurs, je te renvoie au test incroyable de Un Coin de Pixel. Non, First Strike, très bien. Et puis Dry, vraiment, si vous voulez jouer à un jeu suisse qui est incroyable. Ouais, Dry, ça, c'est honnêtement ouais, très impressionnant.
Ok.
Voilà.
Oui.
Bon, puis le jeu de Vutraire, bien sûr,
bien
qui
sûr,
est fantastique. Mais je ne l'ai pas joué, mais je le rêve. Des fois, la nuit, je suis en train d'y jouer, donc je suis sûr que c'est génial.
C'est bon, c'est-à-dire que... Non, ah non, je peux rien dire.
je suis allé voir ton site Vutraire, il est vraiment cool.
Ah, ça, c'est la partie où on se fait tous des bisous.
C'est le moment où on se fait tous des bisous. Non, mais merci, c'est cool.
Il y a tout le monde qui veut aller jusqu'au bout, quoi. Chaque fois, aller plus loin.
Ouais. Mais.
D'ailleurs, c'est toi qui l'as fait.
Le Siphon l'a fait avec Tony, mais Tony a fait toute la partie code, moi.
D'accord.
Fidèle alcoolique.
Mais toi, t'as fait le design.
En partie. Tu
ouais.
sais, il y a un moment donné où t'as tellement d'échanges, de synergie que tu sais plus vraiment qui fait quoi, mais peu importe. C'est le résultat qui arrive.
D'accord, ok.
Exactement. Ouais. Une conscience collective qui produit le jeu.
C'est beau. Ok, d'accord, ça marche. Bon, ben moi j'en ai fini. T'as d'autres questions?
Ouais. Quelle est votre couleur préférée?
On a d'autres des questions de merde.
Alors au départ, il partait plutôt sur caleçon ou slip. Hein, donc là, la couleur, c'est bien.
Ça pouvait intéresser.
Couleur du caleçon.
Ah ouais, par exemple. Voilà,
la couleur du caleçon.
Bah, attends, est-ce que c'est la couleur de votre faction? Peut-être que ça va.
La couleur du caleçon. Non, ouais. Couleur préférée, tu dis?
Ouais.
Non, moi c'est le bleu et je suis dans les rouges.
Okay. Mais est-ce que les bleus, tu les détestes dans le jeu? Ah bah voilà, donc ça peut expliquer le fait que tu te connais un truc sur le cul.
J'aurais bien pris bleu, mais en fait j'avais dit que je voulais être empereur, du coup ça jouait pas. Je pouvais pas être et bleu et empereur.
Ouais.
Du coup j'ai quand même choisi la voie de l'impérial.
D'accord.
Et moi c'est le vert et je suis dans la nerve, donc ça joue un peu. Mais d'accord. Je pense que c'était déjà décidé. En fait, on avait déjà décidé depuis longtemps laquelle faction on voulait.
Ah, j'ai cru quel caleçon vous mettiez.
Non, vraiment la couleur de faction.
Non, je pense pas avoir de couleur préférée. Je pense qu'une couleur est bien dans une situation et une autre moins bien. Mais c'est évident que.
Comme il est consensuel.
C'est évident que je vais pas dire maintenant j'ai envie de voir un écran avec que une couleur. Je vais pas. Enfin, noir c'est un peu triste, mais à part ça.
Mais j'aime quand même bien.
Mais voilà, si tu me dis la couleur dans le jeu, ma préférée c'est le bleu ciel.
Voilà.
Je trouve que c'est la plus belle.
Afera,
clairement.
Clairement.
Non, mais je pense que le dernier truc qu'on pourrait leur demander, c'est qu'est-ce que vous diriez justement aux joueurs d'Asylum Back qui est là, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
Bah, félicitations d'avoir duré tout ce temps-là, quoi.
Virez-nous, je sais pas, 1000 ou 2000 francs sur notre compte.
Comme il est vénère.
Ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y a les chats. Hein. Oubliez pas les chats.
Il y a un chat, mais il est vraiment mignon. À chaque fois qu'on le regarde, on fait.
Gilles a un chat qui s'appelle Sarkozy, pour la petite histoire.
Ah, ça, c'est classe.
Mais il est roux, il est tout petit. Il est un peu grognon.
Non, mais c'est un attaque contre les roux, là, non, mais.
Non, Sarkozy était pas roux.
Sarkozy est petit. Il est roux, comme beaucoup de chats. Mais Sarkozy est petit et lui était petit. Et surtout, il était très grognon.
Ah.
Sarkozy est très grognon.
Ouais, ouais, effectivement.
Mais c'est normal, maintenant il va mieux parce qu'il revient en politique. Mais il a eu une période de 2-3 ans où il était beaucoup plus. Oui, le chat.
J'ai cru que tu parlais du chat aussi.
Et là, pendant 2-3 ans, il était beaucoup plus faible.
Ah, donc il dépend vraiment, il est lié directement à Sarkozy.
Okay, c'est pour ça que, au final, je soutiens un petit peu Sarkozy, mais pas trop.
D'accord, juste pour que le chat aille bien.
Le chat aille bien.
Je comprends.
Il est quand même gentil, Sarkozy.
Le chat, donc.
Voilà, donc.
Je crois qu'on est bon.
Je crois qu'on est bien. On est bien. Ou bien aussi, c'est une question de merde. On peut rigoler un moment. Hein. Moi, je veux bien.
après Sarkozy, j'avoue, j'ai perdu mes moyens.
C'est bien de s'arrêter là-dessus.
C'est chouette. Je pense que c'est
très bien de s'arrêter là. Alors, je te laisse conclure parce que c'est toi qui as fait
le
mot de la rentrée.
Je commence, tu finis. Non, sinon, c'est pas drôle. C'est pas une répartition des tâches qui.
D'accord. Bon, alors, écoute, c'est bien gentil de ta part. Donc, on remercie d'abord toute l'équipe d'être venue. Et puis merci, vous avez été très très loquace. Le franc-parler était hyper agréable. On a pu savoir plein de choses sans que vous ayez essayé de tortiller, de mettre des choses sous le tapis. C'est vraiment hyper agréable.
Ouais, merci.
Et puis on se réjouit de vous revoir quand vous aurez plein de serveurs super remplis et puis qu'on pourra faire un point plus avancé quand le jeu sera terminé.
Ouais, puis que vous viendrez enregistrer dans nos bureaux au 45e étage.
Mais totalement.
Clairement.
Et qu'il y aura des masseuses, ça va être trop bien.
Champagne, évidemment. Et notre coke.
Ah, ça va être trop bien.
On les attend.
Et en tout cas, merci aussi à vous, c'était cool.
Ouais, avec plaisir, c'était.
Avec plaisir.
Ouais,
merci, vraiment un bon moment.
Alors on dit au revoir aux auditeurs,
hein, oui.
Et puis on leur donne rendez-vous avec d'autres développeurs peut-être bientôt.
Certainement.
Ok, au revoir.
Au revoir.
Ciao.